C'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Françoise Varlet. Document d'archives du 25 mai 1994, rediffusé dimanche 27 janvier 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous. Et il est revenu. Il n'a pas été eu. Ça a failli, mais c'est raté cette fois-ci. Ça sera pour la prochaine, ou celle d'après, on ne sait pas. Je suis bien content de retrouver les auditeurs de Radio Courtoisie, le studio de Radio Courtoisie, les techniciens bénévoles et tout ça. Et je remercie tous les auditeurs et tous les amis qui m'ont envoyé des mots tellement gentils pendant mon absence et qui ont travaillé chapelet en main à l'amélioration de la situation de santé de votre serviteur. Apparemment, ça a réussi. J'ai encore des belles tâches. Je le dis parce que on me pose souvent la question. Je ressemble au marsupilami à un détail près. Voilà. Ce soir, on va parler essentiellement du journalisme, parce que en fait, si on y réfléchit bien, on s'aperçoit que le journalisme parle beaucoup, mais qu'on parle finalement assez peu du journalisme. Et comme j'avais envie de faire un petit point sur cette question intéressante du journalisme, je me suis dit que la meilleure solution, c'était d'inviter les journalistes que je connaissais. Et figurez-vous que les journalistes que je connais, d'une façon assez curieuse, ce sont les journalistes qui font un journal qui s'appelle le Libre Journal de la France Courtoise, que j'ai créé il y a un an exactement.
Parce oui,
que
c'est ça a dépassé avec, l'année maintenant. Voilà,
que j'ai créé avec Philippe et Françoise Varlet, il y a un an et dix jours pratiquement.
Oui.
Et... alors, ces journalistes, je vais vous en donner la liste tout de suite. Ils sont pas tous là, je vous rassure. Et ils parleront, tant que faire se peut, chacun à leur tour. Donc, ce soir, nous devrions entendre ADG. Je crois que je respecte à peu près l'ordre alphabétique. ADG, Aramis, Anne Bernet, Anne Brassier, que vous connaissez, puisqu'elle a fait une émission sur Radio Courtoisie également, Jérôme Brigadier, Pierre Chaumeil, Jean-Pierre Cohen, Jacques Houbard, Pierre Monnier, Nathalie Manceau, Daniel Raffard de Brienne, que je salue puisqu'il est déjà dans ce studio, Jean-Cyble de Ventavon, qui sont tous des collaborateurs du Libre Journal de la France Courtoise, à des titres divers et dans des rubriques différentes. Et malheureusement, nous n'entendrons pas ce soir Bernard Lugan parce qu'il est retenu par une conférence. Nous n'entendrons pas non plus... Joseph Grec, et entre nous, il vaut peut-être mieux, parce que lui, il est complètement fou. Donc, un journaliste, quand même, je pense que le trait de caractère principal du journaliste, c'est d'être fou. Du journaliste de chez nous. Parce que naturellement, quand on est au Nouvel Observateur, ou à Globe, ou à Libération, on n'est pas fou. Mais, pour être journaliste de droite, faut vraiment être un dingue. Et à propos de... du Nouvel Observateur. Il y a une chose très rigolote dans Globe cette semaine. Vous allez me dire que je parle souvent de Globe. Ben oui, parce que c'est quand même... c'est un magazine qui est fort intéressant à lire. Et parce qu'il est le reflet d'une forme de pensée qui est très typique de l'intelligentsia parisienne dans certains quartiers de Paris, pas tout Paris. Et de cette forme de pensée qui fait la loi en réalité, qui dit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Et en plus, c'est le dernier journal qui soit absolument, totalement, inconditionnellement inféodé à Mitterrand. C'est-à-dire que tout ce que Mitterrand fait est bien, et c'est le dernier. Et naturellement, ils sont en rivalité constante, ces gens-là, entre eux, Nouvel Obs, l'événement du jeudi, Globe, comme ils ont une clientèle unique, ils se bouffent le nez entre eux. Et cette semaine, il y a un petit article très rigolo sur le classement politique des journaux, et le Nouvel Observateur dans Globe est classé à droite. Donc, Daniel Raffard de Brienne, je pense que vous qui êtes un grand lecteur de journaux, ça vous est une révélation d'apprendre que Le Nouvel Observateur est un journal de droite.
Oui, mais enfin, je dois dire, je ne suis pas un lecteur du Nouvel Observateur, ni de Globe, alors je ne suis pas très très au courant de ces choses-là.
Ça prouve bien qu'on est toujours à la droite de quelqu'un, en tout cas. Alors donc, je disais que Bernard Lugan ne sera pas parmi nous, que M. De Flandre, qui réalise les entretiens courtois.
Oui, les entretiens courtois et quelquefois les choses littéraires aussi.
Voilà, ne sera pas non plus parmi nous, parce qu'il est retenu par d'autres activités, que Joseph Grec, donc, disais-je, ne sera pas parmi nous, et que l'abbé Guimary, qui est retenu par son ministère, ne sera pas non plus parmi nous. Et quant aux dessinateurs, Jackie Redon et Jean-Marc Leroux, je leur ai pas demandé de venir, dans la mesure où, par définition, un dessinateur à la radio n'a pas grand-chose à faire. Et comme Redon refuse pratiquement de parler dans un micro, et que Leroux vit dans les Pyrénées-Orientales, dans un nid d'aigle perdu au milieu de la vallée du Val-Espire. D'ailleurs, quand on a passé 15 jours là-bas, ce qui a été mon cas, on se demande vraiment ce qu'on fait à Paris. Et on comprend très bien que Leroux n'ait pas envie de venir. Alors voilà, on attend ces invités qui vont arriver. Mais avant, je voudrais commencer à parler de la question qui nous intéresse, c'est-à-dire la question du journalisme. Et je vais vous donner un exemple très rapide de manipulation de la réalité quotidienne par ce que j'appellerais l'argument d'autorité. Voilà, cette illustration, elle est caricaturale. C'est la suivante. Tous les journaux radiophoniques, tous les journaux télévisés, tous les journaux imprimés, depuis hier, retentissent d'une information terrible sur un événement qui s'est passé à La Mecque. On nous dit, à La Mecque, il y a eu une bousculade, et il y a eu, alors là, on ne sait pas exactement, mais enfin, en gros, d'après un journal de je ne sais quel pays musulman, 200 morts. Et les journalistes nous disent, en ce moment, à La Mecque, c'est la période de grand pèlerinage, il y a 2 500 000 personnes, et les autorités de La Mecque reconnaissent qu'il y a eu plus de 800 morts en une semaine à La Mecque du fait du pèlerinage. Alors, la façon dont c'est dit, on a l'impression que c'est vraiment une information extraordinaire, et on se dit, consciemment ou inconsciemment, c'est pas étonnant chez ces bougnoules, ils sont pas capables de faire un pèlerinage sans s'écraser. D'abord, c'est des musulmans, donc c'est des bêtes sauvages. Enfin, on développe tout un discours automatique, je dirais. Or, si on arrête une seconde de laisser libre cours à ces automatismes, eh bien, on peut faire un calcul qui est extrêmement simple. C'est qu'on nous dit, il y a 2 500 000 personnes qui sont rassemblées dans cette ville. Alors, question, est-ce que 800 morts, c'est beaucoup sur 2 500 000 en une semaine? Eh bien, pas du tout. C'est exactement la moyenne naturelle, si vous prenez en compte une espérance de vie de 70 ans. C'est-à-dire que si on considère qu'on réunit 2 500 000 personnes et qu'on répartit la mort de ces personnes à un rythme régulier pendant 70 ans, ce qui est normal, vous prenez 2 500 000 personnes en 1900, il ne va pas en rester beaucoup en 1970, eh bien, vous faites la division. Non, je parle des gens qui étaient vivants en 1900, Philippe, ne faites pas des gestes obscènes, voyons. Donc, 2 500 000 personnes en 70 ans, vous faites le calcul vous-même, ça fait en gros 700 morts par semaine. Par conséquent, le fait qu'il y ait eu 800 morts à La Mecque, alors que tout le monde sait, enfin ceux qui s'intéressent à ces questions savent, par exemple, que les vieux musulmans vont souvent à La Mecque dans l'espoir de mourir pendant le pèlerinage, parce que selon leur religion, ils sont assurés de monter directement au paradis.
Oui.
Donc la population de La Mecque, d'autre part qu'il y a très peu d'enfants qui font le pèlerinage de La Mecque, parce que c'est un pèlerinage qui est extrêmement coûteux et extrêmement fatigant. Donc c'est une population dans laquelle il est absolument normal, démographiquement, qu'il y ait 800 morts en une semaine sur 2 500 000 personnes. Mais ça, personne, pas un seul journaliste ne vous le dira. Tous vont faire du fantastique, du sensationnalisme imbécile, en disant, vous vous rendez compte, le pèlerinage de la Mecque, alors on voit bien, naturellement, chez ces intégristes, chez ces fondamentalistes, d'ailleurs tous les pèlerinages sont dangereux, on voit alors, naturellement, en encadré dans un journal, on vous explique que des gens dans un autocar en revenant de Lourdes sont tombés dans un ravin il y a 20 ans, que d'autres, bon, etc. Autrement dit, ne faites pas de pèlerinage, allez plutôt assister au concert de Michael Jackson, c'est moins dangereux. Eh bien, c'est de la manipulation. C'est une petite affaire, ça ne mérite pas qu'on s'y arrête très longtemps, mais ça montre bien que l'information n'a rien à voir avec la réflexion en général. Et que si on arrête un instant d'avaler l'information pour qu'elle nous est vendue, et qu'on la vérifie, qu'on la compare à la réalité, on s'aperçoit que dans une information qui nous est donnée comme formidablement sensationnelle, il n'y a rien d'étonnant. Voilà, on va parler avec nos invités de ce genre de choses. Mais avant, je voudrais vous dire que je viens de lire le succès comique de l'été. J'ai profité de mes 15 jours de villégiature pour me plonger dans la lecture, et je suis tombé sur un livre qui s'appelle Charles Pasqua, et qui a été écrit par Thierry Desjardins. Thierry Desjardins est grand reporter au Figaro, et il a donc publié un pavé de près de 500 pages sur Charles Pasqua. Et je vous dirai pas que je vous en recommande la lecture, mais vous pouvez toujours lire le Libre Journal qui consacre quelques lignes à ce livre, parce que c'est quand même un grand moment. À l'évidence, il suffit de lire le bouquin pour en être convaincu, Pasqua a demandé à Desjardins de lui élever une espèce de tombeau pour un ministre de la police non défunt. Et il a écrit, et donc Desjardins a écrit un livre qui est... Le mot hagiographie est vraiment trop faible. C'est une espèce de prosternation dactylographié, d'où il ressort que Charles Pasqua est non seulement le meilleur des hommes, ce dont on était absolument certain, non seulement, comme le dit à mot à peine couvert la première phrase du livre, le futur président de la République française, et c'est bien la preuve que c'est quand même le succès comique de l'été, mais en plus un homme d'une tendreté rare, car Desjardins, à mon avis, s'amuse à nous expliquer à un rythme extrêmement régulier, à peu près toutes les 12 pages, que Pasqua pleure. Et c'est extraordinaire, vous savez que Pasqua pleure tout le temps. Quand il était petit garçon, qu'il voyait le général de Gaulle, il pleurait. Quand le général de Gaulle gagnait quelque chose, il pleurait. Quand le général de Gaulle perdait, il pleurait aussi. Et le chapitre le plus émouvant, c'est celui dans lequel Desjardins nous explique que le soir où Malik Oussekine est mort. Vous vous rappelez de Malik Oussekine? Malik Oussekine était un étudiant beurre qui est mort au cours des manifestations, on peut dire d'ailleurs des émeutes de 1986, et dont la mort a été attribuée à des violences policières, ou, selon les interlocuteurs, au fait qu'il était atteint d'une très grave maladie rénale, et que c'était une maladie qui exigeait qu'il soit suivi très sérieusement et notamment qu'il ait des comment appelle-t-on ça, les traitements du sang. Jacques Houbard qui vient d'arriver va certainement me dire ça. Une dialyse, oui, il faut le dire dans le micro, autrement on n'entend pas. Qu'il devait suivre des dialyses très régulières et qu'il en aurait sauté une ou deux, enfin une en tout cas, et que donc il était très fragilisé. En tout cas, ce jeune homme est mort. Et Thierry Desjardins nous raconte qu'en pleine nuit, on est venu prévenir Charles Pasqua dans ses appartements de fonction de la place Beauvau de la mort de Malik Oussekine, et que, en descendant dans son bureau, certains l'ont vu écraser une larme. Alors, bon, je veux pas m'étendre parce que c'est tellement pitoyable, c'est comique, quoi. Mais pour quelqu'un qui connaît un peu Pasqua, ça peut pas susciter autre chose que le geste fameux désormais qui consiste à se taper le derrière contre la suspension, exercice de haute virtuosité gymnique mais qui quand même permet d'évacuer certaines tensions et certains stress. Alors, ne lisez pas le bouquin des jardins, ne perdez pas votre temps, je l'ai fait pour vous, mais sachez que ça va probablement être le grand succès comique de l'été, et je ne voulais pas rester en arrière de la main Kant est en train de se mettre sur pied le lancement du futur président de la République française. Et donc, j'ai demandé à Monsieur Pasqua de bien vouloir s'exprimer au micro de Radio Courtoisie sur un sujet qui est un sujet de forte actualité, qui est toujours un sujet d'actualité, puisque il s'agit de la peine de mort. Alors, Monsieur Pasqua est ministre de la Police, Monsieur Pasqua vais-je y arriver, futur président de la République. Alors, en tout cas, je lui ai laissé la parole, il s'exprime.
C'est toujours la même chose, et ça sera toujours la même chose. On ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça, on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurai jamais rien.
En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que c'est pas moi.
Moi, j'étais à la messe. Je sais bien que c'est pas moi non plus.
Mais alors, qui est-ce?
C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a tiré le panier sans y faire attention, et de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole.
Tu en as pris, toi, des croissants?
Ah oui, naturellement, j'en ai pris ce matin pour mon petit déjeuner, pour me nourrir.
Ça, non.
Pourquoi ça, non?
Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui.
Tu me l'as déjà dit bien souvent, ça.
Et ça n'a jamais servi à rien.
Alors, à quoi ça sert de me le redire?
Oh, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre, et que le métier d'épicier est aussi honnête qu'un autre, et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament.
Je vois clairement où tu veux en venir. Tu vas encore me dire que je suis un bon à rien.
Oh, que non! Bon à rien, ce serait encore trop dire. Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.
Je te saisis et je suis profondément blessé.
Voilà comme il est. Il fait des grimaces et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Lui, il travaille dans le magasin. Il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés.
Voilà. Alors, il y a eu un incident technique, c'est-à-dire que quand je suis allé voir Pasqua, j'ai laissé tourner mon magnétophone, et au lieu de garder la bande qui concernait la peine de mort, j'ai gardé l'enregistrement automatique d'une petite querelle familiale qui se déroulait chez lui. Mais enfin, vous avez entendu le futur président de la République. Et pour ma part, je pense qu'après tout, on n'a que des raisons de se réjouir de voir que la France a représenté d'une façon aussi digne par un personnage aussi à la fois considérable, sérieux et sympathique. Oui, on a des appels.
Oui, on a eu beaucoup d'appels de personnes qui se réjouissent de votre retour. Cher Serge, quelle joie de vous réentendre. Surtout, continuez à prendre soin de vous. On vous aime. Et longue vie au marsupilami, etc. Enfin, il y a énormément de gens qui sont très contents de vous retrouver.
C'est très gentil, ça fait plaisir. Alors, il y a d'autres appels. Un auditeur nous dit « Bernard Tapie recueillerait entre 10 et 15% selon les sondages ». Alors, voilà un autre exemple. Et cet auditeur ajoute que comme les sondages sont effectués dans les banlieues, ça fausse les résultats. Je ne sais pas si les sondages sont effectués spécialement dans les banlieues. Ce qui est certain, c'est que les sondages sur les intentions de vote aux européennes telles qu'ils sont publiés, n'ont absolument aucune valeur, n'ont aucun sens. Je persiste à le dire, bien que certains pensent le contraire et soient en admiration devant les sondages. Ces sondages sont manipulés pour une raison que Jean Madiran a expliqué plusieurs fois dans Présent et qui est évidente. C'est que tous les spécialistes sérieux des sondages vous disent que à mesure qu'on s'approche d'une répartition des voix de 50-50, la marge d'erreur s'accroît pour aller jusqu'à 4%. Autrement dit, quand vous dites la gauche va l'emporter, le candidat de gauche va l'emporter au deuxième tour des présidentielles, de la présidentielle, avec 54% des voix contre 46% au candidat de droite, vous devriez dire la gauche va avoir entre 50 et 54% des voix et la droite va avoir entre 46 et 50% des voix. Autrement dit, personne ne peut dire sérieusement que tel ou tel candidat va l'emporter. Et alors il est évident que quand vous faites un sondage, en général c'est des sondages qui sont sur 1004 personnes. Je ne sais pas pourquoi 1004, mais souvent on entend 1004 personnes, échantillons représentatifs, etc. Et que vous posez la question à ces 1000 personnes, et que sur ces 1000 personnes, il y en a 10% qui vous disent « je vais voter pour Tapie », 10% de 1000, même avec les mathématiques modernes, ça fait 100 personnes. Et personne ne peut raisonnablement appuyer un raisonnement politique sérieux sur le fait que 100 personnes ou 90 personnes ou 110 personnes disent quelque chose. C'est pas sérieux. Donc ces sondages sont une formidable imposture. Et ce qui est désespérant, c'est que, bien sûr, les journaux les rapportent, et là on est dans notre sujet, et les traitent sans aucune arrière, sans aucune, comment dirais-je, sans aucun recul. Mais ce qui est pire encore, c'est que les hommes politiques en tiennent compte et que tout leur comportement est dicté par ça. On en a la preuve en ce moment avec l'extraordinaire arrogance de gens comme Baudis qui, sous prétexte que les sondages leur donnent 36%, 35% des voix, refusent de débattre avec ce qu'ils appellent les petites listes, c'est-à-dire des gens qui vont avoir 10% ou 15% des voix. En revanche, acceptent de débattre avec ce qu'ils appellent des grandes listes, c'est-à-dire la liste du Parti Socialiste, qui, elle, va avoir, d'après les sondages toujours, 17% des voix. Alors, ces sondages permettent, rendent les hommes politiques complètement fous, et sont publiés par les journaux parce que ils sont un motif de lecture des journaux. C'est un produit d'appel, un sondage. Et il y a qu'à voir comment ils sont utilisés, avec des diffusions des résultats à la radio, à la télévision. On dit, dans un sondage, Louis Harris, l'Express, on apprend que monsieur, la liste de monsieur Intel aurait gagné un point, ou un demi-point. On a vu mieux, on a vu un demi-point. J'ai entendu que la liste du Front National était passée de 9,5% à 10% des intentions de vote, ce qui marquait, nous expliquaient les doctes analystes politiques, une certaine circonspection des Français à l'égard de l'Europe. C'est vraiment se foutre du monde. Mais si les journaux publient ça, c'est parce que les gens le lisent. Moi, je suis convaincu que si les gens écrivaient aux journaux en leur disant « Écoutez, arrêtez de nous raconter des balançoires. Vos sondages, c'est du bidon. Ils n'ont aucune importance. On n'y comprend rien. Ils sont truqués. Ils sont même pas truqués. Ils n'ont aucun sens. » Eh bien, les journaux s'arrêteraient d'en publier. Et on en reviendrait à un statut, un fonctionnement politique un peu plus normal, me semble-t-il. Mais il faut croire que ces histoires de sondages arrangent tout le monde. Je sais pas, est-ce que Jacques Houbard veut dire quelque chose?
Justement, j'ai beaucoup, moi, dans les dernières années, réfléchi à ces problèmes de sondages. Et je voudrais évoquer une chose, un événement ancien. Françoise Giroud, en a sorti d'ailleurs un livre, avait fait dans les années 60 un grand sondage dans la jeunesse française. Et alors, imaginez le genre de questions qu'elle posait, car la réponse à un sondage est fonction de la question. C'est-à-dire que non seulement il truque le panel, l'échantillon, mais la question elle-même impose une réponse. Alors, par exemple, on allait trouver un brave gars dans les années 60 avec sa nana au Dupont Latin, par exemple, et on lui demandait, ou ses enquêteurs demandaient au gars, « Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour la patrie ?» Mourir pour la patrie, disait le gars, moi, j'en ai rien à foutre de mourir pour pourquoi, tout ça. Bon, évidemment, non, non, non. Alors, il tâtait comme ça, 200 ou 300 personnes, et des types qui, à froid comme ça, n'avaient aucune envie de mourir pour la patrie, mais qui, certainement, la patrie, on aurait dû la défendre, ils étaient sûrement peut-être très héroïques et courageux. Donc, premièrement, on pose une question truquée. On est sûr d'avoir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un réflexe antipatriotique. Et après, on le renvoie, on le publie, on fait un livre, et on le renvoie dans la gueule des gens. C'est le feedback du sondage.
Et ça normalise l'attitude, c'est-à-dire que l'attitude qui consiste à dire « bah non, il n'y a pas question que je meure pour la patrie » devient l'attitude chic, puisqu'elle est majoritaire dans les sondages. Ouais. Voilà, alors ça c'est encore un autre exemple du fonctionnement des journaux. Et je voudrais vous donner un troisième exemple. Ça, c'est dans Le Monde d'aujourd'hui. C'est l'affaire Vatzal. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affaire Vatzal? En deux mots, il s'agit d'un incident qui s'est déroulé le 28 avril dernier à l'université de Nanterre. Ce jour-là, une table ronde a été organisée sous le titre « Germanophilie, germanophobie ». L'Allemagne en question. C'était organisé par un monsieur Michel Corinman, directeur de l'université ou de l'unité de valeur de langue, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, et qui avait invité des personnalités à prendre la parole. Parmi ces personnalités, il y avait un conférencier allemand qui s'appelle monsieur Ludwig Vatzal, et qui est haut fonctionnaire, membre du Centre national d'éducation civique d'Allemagne, qui est un libéral, et alors qu'il allait prendre la parole, une vingtaine de trotskistes sont entrés dans la salle, l'ont littéralement lynché à coups de pied, à coups de poing, l'ont craché dessus, et l'ont finalement contraint à se sauver, et il n'a pu trouver refuge qu'à la gare RER de Nanterre, Nanterre Université, ce qui est un gag extraordinaire, parce qu'il faut savoir que la gare RER de Nanterre Université, c'est un des lieux de la délinquance banlieusarde, jeune, les plus dynamiques. Alors ce type avait tellement peur des étudiants qui voulaient lui casser la figure et qui avaient commencé à le faire, qu'il est allé se réfugier dans un des hauts lieux, dans un des sanctuaires des gangs ethniques. Et alors, les étudiants Gdiandian qui l'ont chassé, qui sont les étudiants Gdiandian de la Confédération nationale du travail, et qui se proclament anarcho-révolutionnaires, en 1994, il faut le faire quand même, ont expliqué qu'ils avaient fait ça parce qu'ils ont un dossier sur M. Vatzal qui serait en relation avec Manfred Brunner, chef de file de la Nouvelle Droite outre-Rhin. Et il y a cette phrase dans Le Monde, mais ils n'ont produit jusqu'alors aucune pièce probante. Ce qui veut dire, si je sais lire un article, que si ces braves étudiants de la Confédération nationale du travail, qui ont pratiquement lynché un conférencier à Nanterre, avait apporté la preuve qu'il était d'extrême droite, Le Monde aurait trouvé la chose tout à fait normale. En fait, ce qu'on reproche aux voyous de la CNT, c'est pas du tout d'avoir cassé la gueule à un type, c'est d'avoir cassé la gueule à un type sans avoir la preuve qu'il était d'extrême droite. Et ce manque de preuve a des conséquences graves, puisque, du coup, à l'université, c'est la panique. Alors, je vais me contenter de vous lire la suite parce que elle illustre admirablement la formidable lâcheté, la veulerie répugnante de ces gens-là, de cette classe, de certains membres de cette classe universitaire. Alors, on ne comprend toujours pas. Voilà, Ludwig Vatzal, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il dénonce cette atteinte à la liberté d'expression et il a présenté au président de l'université, Michel Imberti, divers témoignages pour attester de ses convictions démocrates. Vous voyez, le gars, il s'est fait casser la gueule dans un lieu universitaire alors qu'il était en quelque sorte sous le garant des franchises universitaires, hein, et il est obligé d'appeler des témoins qui vont voir M. Imberti, président de l'université, pour lui dire « Non, non, c'est pas quelqu'un d'extrême droite, il a des convictions démocrates ». M. Vatsal a également demandé à la tribune, à la présidence, de traduire les fauteurs de troubles en tant qu'organisation devant la commission de discipline, de supprimer les locaux de la CNT et de bannir ce syndicat de l'université. Ce syndicat, c'est une bande de voyous, ce sont des reîtres d'extrême-gauche, trotsko, anarcho-syndicalistes et tout ce que vous voulez, qui ont battu un conférencier à coups de poing, à coups de pied, et qui lui ont craché dessus et qui l'ont chassé de l'université. À mon avis, c'est pas une punition extrêmement grave que de tout simplement leur supprimer les locaux dans lesquels ils ont installé leurs repères et de les chasser de l'université en tant que syndicat. Et là, je lis Le Monde. Placé en position d'arbitrage, Michel Imberti s'est hâté de ne pas statuer, renvoyant dos à dos aux fins d'enquête sur les violences et la personnalité de M. Vatsal, les conférenciers et leurs auditeurs irascibles. Et vous pouvez lire le papier du Monde. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose qui choque ces vigoureux défenseurs de la démocratie. Au fond, je suis sûr que tu trouves ça. Si jamais M. Vatsal pouvait être surpris, photographié avec un type aux cheveux courts, eh ben, vous auriez un papier pour expliquer qu'après tout, ce qui lui est arrivé, c'est bien fait. Et je vous lis quand même la suite de la fin de cet article. Si bien qu'au-delà du débat sur la liberté d'expression, cette affaire sert aujourd'hui d'exutoire à des règlements de compte internes sur la gestion de l'université. Les étudiants de la CNT reconnaissent d'ailleurs que la polémique qui s'engage les dépasse largement et qu'une déstabilisation de Nanterre pourrait notamment servir l'université privée Pasqua qui doit ouvrir ses portes à la défense à la rentrée 95. En tout état de cause, leurs ennuis ne font que commencer. L'un des conférenciers allemands se serait proposé pour identifier les fauteurs de troubles devant la commission de discipline de l'université. Voilà où on en est, et on n'est pas en 1968, hein. On est en 1995. Alors, tout ça pour vous dire, si vous êtes d'extrême droite, si vous connaissez des gens d'extrême droite, si vous avez les cheveux courts, ce qui n'est pas le cas des personnes présentes ici, faites attention. Ne passez pas dans le coin de l'université de Nanterre. Parce que vous risquez de vous faire casser la figure, et ce sera considéré comme une chose parfaitement normale. Oui, une auditrice nous dit ce qu'on vient d'entendre vient du film Le Schtroumpf.
Le Schtroumpf,
non,
on va le dire,
c'est pas le Schtroumpf, c'est le Spunz. Ah oui.
Ça change tout.
À peine rentré, M. de Beketch crasse son venin sur M. Pasqua, qui est aussi honorable que lui, M. de Beketch. Les messages ne sont jamais passés. Faux, madame, voyez, vous en avez menti. Et bien sûr, mais pas aussi honorable que moi, M. Pasqua est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais beaucoup plus honorable. Hein, beaucoup plus honorable. Il a commencé sa carrière comme détective privé. Vous saviez ça? Il poursuivait les cocus. Enfin, il était payé par des cocus pour essayer de suivre les dames qui allaient faire des galipettes avec des messieurs dans les hôtels de grâce. Ce qui est un métier parfaitement honorable, je m'empresse de le préciser.
Il est toujours payé par les cocus, d'ailleurs.
Il est toujours. Ça, c'est Jean-Pierre Cohen qui vient de parler. Ensuite, il est devenu... ça, je parle de sa carrière matérielle. Ensuite, il est devenu quelque chose d'encore plus honorable que traqueur de femme adultère pour le compte des coquilles. Il est devenu marchand de Ricard. C'est-à-dire qu'il allait dans les bistrots en disant aux gens « Achetez donc des bouteilles de Ricard », ce qui est un beau métier. Et vous savez comment il a percé, M. Pasqua? Tiens, je vais vous raconter. Vous allez voir s'il est honorable. Beaucoup plus honorable que moi, bien sûr. Pour se faire bien voir de Ricard, Paul, le patron fondateur de l'entreprise, il a eu une idée qui, je dois dire, est absolument géniale. Il s'est dit « Il faudrait arriver à ce qu'on voit la marque Ricard dans un endroit où personne ne l'a jamais vue et où on est assuré que tout le monde la remarquerait. » Alors, il a cherché. Et il a appris, M. Charles Pasqua, honorable ministre de l'Intérieur, que le pape allait faire une visite à Lourdes. Il s'est dit, ben voilà, Alors qu'est-ce qu'il a fait, l'honorable monsieur Pasqua? Il est allé à Lourdes, il est allé dans un bistrot à Lourdes, il a pris deux carafes publicitaires Ricard, vous savez, les carafes avec la petite marque jaune, là. Il les a remplies d'eau. Dans chacune des carafes, il a mis des fleurs, des petits bouquets de fleurs. Et puis, très discrètement, il est allé, juste avant la visite du pape à la grotte, porter les deux bouteilles de carafes, les deux carafes de Ricard dans la grotte, et il les a posées, comme s'il posait des fleurs, au pied de la Vierge. Si bien que quand le pape s'est incliné devant la statue de la Vierge, s'agenouillé devant la statue de la Vierge, tous les cinéastes, enfin les pâtés actualités, etc., qui étaient là, tous les photographes de presse ont photographié le pape à genoux devant une carafe de Ricard. Ça a fait un tel scandale que l'évêque de Lourdes a adressé une lettre de protestation extrêmement vigoureuse à Ricard. Et ce qui fait que maintenant, je pense qu'il s'était fait tirer les oreilles à l'époque, l'honorable monsieur Pasqua, ce qui fait que maintenant Pasqua raconte que c'est pas du tout lui qui a fait ça, c'est un de ses vendeurs, un de ses représentants, et que lui avait tiré les oreilles, il avait engueulé pour avoir commis ce crime de lèse Notre-Dame.
Je me souviens très bien du film, c'était la bataille de Lourdes.
Oui, c'est ça. Merci ADG de cette intervention qui était effectivement urgente. Donc c'est pour vous dire combien monsieur Pasqua est honorable. Et un auditeur dit, monsieur Pasqua a-t-il pleuré sur la mort de Sébastien Desieux? On ne peut pas le savoir parce que le livre de Desjardins ne va pas jusque-là, mais j'en ai pas entendu parler. Je crois pas. Voilà. D'autres messages? Non, c'est tout. C'est tout. Alors à propos de sondage, toujours, oui. On nous signale que dans le Figaro du 27 avril, il est question de sondage qui donne les résultats suivants. Liste Baudis, 37%. Liste Rocard, 18%. Liste Le Pen, 10%. Liste Tapie, 9%. Liste Communiste, 5%. Liste Villiers, Chevènement, 5% chacun. Génération Écologie, 4%. Les Verts, 4%. Chasse et Pêche, Nature et Tradition, 3%. Extrême Gauche, 1%. Ne sait pas, 10%. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais à mon avis, ça doit être des résultats de 120% de personnes interrogées. Oui, alors naturellement, on me rappelle ça, effectivement, un auditeur rappelle ça, une autre preuve de la parfaite honorabilité de M. Pasqua, c'est qu'il a été le patron du sac marseillais. Et Desjardins a une phrase admirable dans son livre, il dit... il était le patron du sac. Il avait fait éjecter Monsieur De Bizet, qui a été un grand, grand patron du sac, et qui est un grand bonhomme, et parce qu'il était Algérie française et que Pasqua vomissait l'Algérie française. Et il avait pris sa place. Et Desjardins écrit que, bien sûr, quand il a recruté pour le sac à Marseille... Il a pris ce qui se présentait. Et il y a des gens qui nous disent, Desjardins, t'es pas totalement acquis aux idéaux démocratiques, en tout cas dans leur application quotidienne. Et par exemple, quand ils sont montés donner un coup de main à leurs camarades de Grenoble à l'occasion d'une visite du président de la République qui était Charles de Gaulle à l'époque, ils ont tué un communiste dans une bataille. Et comme il fallait pas que le corps soit découvert tant que De Gaulle était en ville, parce que ça n'aurait pas fait chic dans le tableau, et ben on a mis le corps du communiste dans une glacière et on a prévenu la police. Je sais pas si c'est une glacière Ricard, j'espère que non, quand même pas. Et on a prévenu la police que après que De Gaulle fut parti. En tout cas, dit Desjardins, tous les membres du sac de Marseille qui ont comparu devant la justice... pour des actes répréhensibles, illégaux et crapuleux, ont pu faire admettre que ça n'était pas en obéissant aux ordres de leur chef Pasqua qu'ils avaient commis ces actes. Effectivement, par exemple, les gars qui avaient 3 ou 4 filles sur le ruban à Marseille, ou les gars qui avaient été pris dans une voiture avec quelques kilos d'héroïne, où les gars qui avaient racketté un bar, ils ont pu prouver que c'était pas sur ordre de leur chef qu'ils l'avaient fait. Et ça va encore, ça, tout à fait en faveur de la parfaite honorabilité de Pasqua, je m'empresse de le dire, et je remercie notre auditrice de m'avoir donné l'occasion de cette mise au point. Je voudrais surtout pas qu'on croie que je mets en cause l'honorabilité d'un ministre de l'Intérieur. D'abord, un ministre est forcément honorable. Vous n'avez qu'à demander au ministre socialiste. Voilà. Alors, autour de moi, après cet aperçu de l'actualité, Françoise Varlet, ADG.
Oui, présent. Je suis pas du journal présent, hein, je tiens à le préciser.
Daniel Raffard de Brienne, Jacques Houbard et Jean-Pierre Cohen.
Non, c'est Lévi. Cohen est resté dans sa cave.
Cohen est dans sa cave. Donc, tu le représentes.
Je le représente.
Moi, j'allais dire que Cohen était venu, il avait accepté de sortir de sa cave.
Non, il est resté là-bas.
Ah bon, d'accord. Alors, j'ai demandé à ces messieurs, fort honorables, eux aussi, de venir ce soir, puisque ce sont des journalistes, tous. Je pense que Daniel Raffard de Brienne, bien que ça ne soit pas son activité principale...
Je ne peux pas dire que je sois journaliste, je serais plutôt du genre retraité, qui collectionne des articles, des conférences, des bouquins, plutôt que de collectionner les papillons ou les pure-pipes.
Alors vous êtes, puisqu'on parle de vous, vous êtes entre autres conférencier très recherché sur le Saint-Suaire.
Oui, j'ai un certain nombre de spécialités que je serais d'ailleurs incapable d'énumérer comme ça, pris à court.
Mais la conférence oui. Les conférences sur le Saint-Suaire, vous en avez donné combien ?
Plus de 100.
Pas mal, hein.
Dans le cadre du Centre international d'études du linceul de Turin, dont je suis vice-président, et dans le cadre de Renaissance catholique, dont je suis aussi vice-président. Et j'en ai encore quelques-unes programmées pour dans 8 jours.
Alors, vous avez dans le libre journal de la France courtoise une chronique qui s'appelle « Lettres martiennes ».
Oui, là, je ne suis que le traducteur, en réalité. J'ai trouvé une source assez... Enfin, je ne peux pas entrer dans les détails. Nous soyons entre nous, bien sûr. Mais non, je ne peux pas. Mais je publie au fur et à mesure que ça me tombe dans les mains. Après une traduction qui est assez délicate, je dois le dire. C'est une langue assez particulière. Il me semble qu'elle est apparentée aux langues agglutinantes du type oural-voltaïque. Enfin, il y aurait une étude à faire sur le peuplement de Mars qui serait très intéressante. Enfin, je vous ai dit que je publie. Je trouve que ça a du mal à venir. Si des auditeurs pouvaient trouver des sujets que je puisse faire inspirer à ce brave martien qui ignore tout de cette histoire, naturellement. Il ne faut d'ailleurs pas lui dire. Hein. Qu'on publie sans ça couperait la source.
Il n'est pas abonné, donc.
Non, il n'est pas abonné.
C'est une très mauvaise idée parce que... je pense que si on avait quelques abonnés sur Mars, ça pourrait pas nous faire de mal. Le principe, c'est le principe de l'être personne, c'est-à-dire c'est un regard porté sur...
De l'extérieur,
un regard très extérieur, du point de vue non pas de Sirius, mais de Mars.
Voilà, sur nos affaires terriennes, avec une petite sévérité, me semble-t-il, je ne partage pas toutes les opinions de ce martien, enfin je suis impartial, quand je vois prendre à partie des gens aussi honorables, vous parliez de M. Pasqua, il semble qu'il ne s'en occupe pas beaucoup, tiens. Non. Enfin, on verra, peut-être s'en occupera-t-il. Mais il s'occupe de M. Léotard. Il a l'air, par exemple, de mettre en doute les qualités de maître maçon de M. Léotard, alors que c'est tout à fait faux. M. Léotard est très capable de réparer la ligne Maginot le dimanche.
Hein. Oui. Pourquoi
lui suggérer ?
Il suffit de lui donner une truelle.
Voilà. Ou quand on reproche à Mme Veil son regard reptilien ou froid, c'est pas vrai du tout. Enfin, elle a un bon regard de la bonne maman de tous les petits avortés de France. Enfin...
Alors, justement, ça permet de... Est-ce que cette technique permet de dire des choses beaucoup plus méchantes que le journalisme de révélation et d'investigation ?
Je pense que ça peut être assez méchant. C'est peut-être assez méchant, oui.
C'est une technique qui est aussi un peu utilisée d'une façon différente par ADG, qui, lui, a pris pour une fois pour toutes...
Oui, c'est mon voisin du dessus, lui.
Oui, c'est ça.
Non, mais j'ai un voisin du dessous
qui est Cohen,
qui est dans la cave. D'ailleurs, il arrive plein de salpêtres, hein, je tiens à le dire.
On va en parler de sa cave, mais...
Taisez-vous, El Canac.
J'aimerais bien qu'on arrive à déterminer si, oui ou non, la dérision comme comme la pratique Daniel Raffard de Brienne ou comme la pratique ADG, est un moyen de faire passer de l'information.
Ah, moi, je ne sais pas, je pratique absolument pas la diraison. Je fais des études bien précises sur des cas bien précis qui sont les Zoulous, les, je parle des véritables Zoulous, les Papous, les
Kakaks,
avec une X, obligatoirement. Je me mêle pas trop des histoires du Moyen-Orient, parce que y a danger quand même. Mais je m'occupe des peuples de l'Océanie et tout ça est extrêmement cohérent. Enfin, tout le monde, enfin, tous ceux qui me connaissent savent que je suis cohérent.
Oui. Oui, ça c'est vrai. Surtout à partir de 6-7 heures du soir. Oui.
Et ça dépend d'où je sors.
Jean-Pierre Cohen, alors, il faut dire une chose d'abord pour commencer, il faut le préciser tout de suite, c'est que, parce que la lettre, là, la question a été posée dans de nombreuses lettres, il faut dire la vérité, alors, sur le pseudonyme. Est-ce que Jean-Pierre Cohen est un pseudonyme ?
Non, Jean-Pierre Cohen n'est pas un pseudonyme. Si. Voilà, une bonne fois pour toutes, que ce soit dit.
Donc Jean-Pierre Cohen s'appelle bien Jean-Pierre Cohen, on s'en expliquera à la sortie. Alors, cette rubrique qui s'appelle Cohenerie, qui est un joli titre,
oui.
Tu lui as ajouté un sous-titre depuis quelque temps qui relève alors là purement et simplement de la provocation.
De la provocation, le journal d'Anne Frank. Oui, d'ailleurs, c'est très à la mode.
Oui,
c'est très à la mode. C'est très à la mode. Il y en a des milliers maintenant.
Il y en a des milliers au Rwanda.
À Kigali, on a découvert des Anne Frank, Tutsi et Hutu à Kigali. Dans des caves, d'ailleurs. J'ignorais que les petites maisons en torchis de Kigali avaient des caves.
Bah, ça, j'ignorais. Elles ont dû creuser des caves juste pour
ça nous a appris quelque chose. Ça nous a appris quelque chose.
Les petites filles. Alors, le rôle de cette chronique, comment tu...
Ah ben, d'abord, pour moi, c'est une nécessité. Hein. Moi, je fuis la bâtimonde qui me traque depuis toujours. Et donc, je me suis réfugié dans ma cave une bonne fois pour toutes et je n'en sortirai pas tant que le mal ne sera pas éradiqué.
Hein? Alors, il faut expliquer pour les rares auditeurs qui ne seraient pas en même temps des abonnés au Libre Journal que, effectivement, cette chronique qui s'appelle Cohenerie, sous-titrée Le Journal d'un Anne Frank, raconte la vie quotidienne de Jean-Pierre Cohen qui, à force de lire dans la presse et d'entendre la radio,
a développé une paranoïa.
des informations sur la fécondité renouvelée de la bête immonde a fini par développer effectivement.
D'ailleurs, je ne suis pas depuis toujours. C'est très exactement daté puisque en fait, ça remonte à maintenant le 1682 jours, c'est-à-dire depuis cette nuit funeste de Carpentras, de la profanation de Carpentras. Voilà, c'est depuis ce jour-là que je me suis réfugié dans ma cave.
Ça fait peur. Hein.
Oui, moi aussi, je dois dire que j'ai eu très très peur après Carpentras, parce que je me suis dit que vraiment, si la droite nationale était capable de faire des choses comme ça, je n'avais rien à faire avec elle. Et le drame, c'est qu'on ne sait toujours pas la vérité. On sait en tout cas une chose certaine. Je l'ai déjà expliqué à ce micro, c'est que c'est en tout cas pas quelqu'un de droite. D'aussi loin que ce soit, parce que étant donné les investigations qui ont été menées pendant des mois par des centaines de policiers dans tous les milieux d'extrême droite...
Mais ça continue. Hein. Nous en sommes à la quatrième année. L'enquête continue. Enfin, l'instruction continue. J'ai fait l'année dernière
pour le troisième anniversaire.
Je suis allé voir Carpentras trois ans après. J'ai vu les responsables des enquêtes, le juge d'instruction, etc. Ils sont toujours fidèles au poste. Non, ça, il faut être très rassuré de ce côté-là. Il faut pas dire que la justice ou que la police ne fait pas son travail. Ils sont mobilisés 24 heures sur 24. Et ils pèlent sans arrêt à la recherche de la vérité. Bon, en plus, là, très très prochainement, il va y avoir un rassemblement de Harley Davidson et de Bickers, de Johnny Hallyday à Carpentras. À mon avis, avec le bruit qu'ils vont faire, avec les motos qui vont racler un petit peu les fonds de terroir, je pense que là aussi, un petit peu de vérité va se dégager.
Je crois d'ailleurs que ils sont en train de se démasquer eux-mêmes parce que ils cherchent la provocation ils cherchent la rivalité ethnique, disons. Ces agents provocateurs que moi, j'ai tendance à bien situer à une époque où un certain monsieur était ministre de l'Intérieur et à cette époque-là d'ailleurs. Et maintenant, ils attaquent d'autres tombes, d'autres cimetières, des tombes militaires, des tombes, ils attaquent même des tombes chrétiennes maintenant. Et à mon avis, ils cherchent actuellement à provoquer des incidents de cet ordre, quitte d'ailleurs à ce que dialectiquement, une dialectique qu'ils connaissent bien, cela déclenche à nouveau des attaques, peut-être cette coup-là spontanées, de cimetières juifs. Donc il y a des provocateurs qui attaquent les cimetières maintenant. Et il suffira de les prendre une fois dans un cimetière juif ou pas, et on va les avoir. Moi, je crois, ce qu'il faudrait, c'est arriver à piquer les types.
Je crois qu'ils en ont découvert récemment quelques-uns. C'était des gamins de 7 ans, 8 ans.
Toujours. Hein.
Tout simplement. Bon,
moi, je dirais qu'il n'y a pas...
Ils étaient peut-être travaillés par des images à la télé, ouais. Comme ça, puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce que les profanations de cimetières, il y en a toujours eu. Chrétiens... juifs, etc. Il y en a toujours, il y a chaque année quelques-uns. Il n'y a que depuis quelques années que ça sert de démonstration à des thèses politiques.
L'affaire à laquelle tu fais allusion, c'est une affaire récente qui s'est passée dans l'Est.
Oui, voilà,
dans et là, il faut quand même, encore une fois, montrer à quel point la manipulation est vraiment aveuglante et grotesque. Le jour de la découverte de la profanation, le patron local de la gendarmerie est venu et a dit « Mais nous avons la certitude maintenant qu'il s'agit d'une bande organisée de néo-nazis qui est venue profaner ce cimetière et nous allons tout faire pour les traquer et pour les découvrir. » Et effectivement, le lendemain, ils ont arrêté 3 gosses de 12 ans.
Oui, le plus jeune avait 7 ans, je crois.
Mais la veille, ils avaient la certitude absolue qu'il s'agissait d'une bande organisée. Et le gendarme avait expliqué que la technique la technique mise en œuvre pour profaner ce cimetière montrait qu'il s'agissait d'une organisation qui avait de gros moyens. Ouais. Ce qui était exactement ce qui avait été dit d'ailleurs à Carpentras, où on nous avait expliqué, un jour on nous expliquait que c'était une organisation paramilitaire qui avait de gros moyens, le lendemain qu'il s'agissait probablement d'une bande d'ivrognes qui avait voulu s'amuser, le surlendemain qu'on ne savait pas du tout de quoi il retournait. Oui. En tout cas, le résultat, c'est qu'on a entretenu pendant des mois la tension avec cette affaire, et qu'aujourd'hui, 1682 jours plus tard, on ne sait toujours pas la vérité, en dépit de la mobilisation de centaines de policiers. Et là, on est obligé de dire que c'est pas plus la faute de M. Jox que de M. Pasqua. Donc il n'y a aucune, évidemment, arrière-pensée politique là-dedans, parce que le bruit a couru qu'en fait, on savait pertinemment qui étaient les profanateurs, mais que si on les arrêtait, ça aurait provoqué un tel scandale médiatique qu'on préférait ne pas les arrêter. C'est certainement pas vrai. Je suis convaincu de l'honnêteté, encore une fois, de l'honorabilité de M. Pasqua comme de celle de M. Jox. Ils veulent vraiment, ils sont vraiment à la recherche de la vérité dans cette histoire, et simplement ils n'aboutissent pas.
Ça demande du temps. D'abord parce que les reconstitutions sont difficiles, puisqu'il faut attendre quand même des lunaisons spéciales. Je crois qu'il y avait ce soir-là une pleine lune, donc il faut attendre des conditions, d'hygrométrie, de vent, etc. C'est ce que vous avez expliqué le juge d'instruction.
Je vous avoue que personnellement, je maintiens ma sévérité, car nous sommes en présence depuis 1981 un régime qui est dirigé par un agent provocateur qui a fait la provocation des journaux de l'Observatoire et qui en a fait plusieurs autres. Donc la provocation est quand même un style politique de ces gens-là.
Ah mais complètement. Dangereuse d'ailleurs.
Moi je crois qu'il y a aussi un autre problème. Il y a un problème de ce qu'on appelle les problèmes de société ou de civilisation, qui sont en fait des problèmes de barbarie. Il y a un vandalisme qu'on retrouve partout. On le trouve donc facilement dans les cimetières, qui sont des lieux facilement accessibles et non défendus. Donc je crois que des voyous se défoulent tout simplement. Et puis il y a également un phénomène plus secondaire, mais qui est important, ce sont les sectes satanistes. On en parle. Il y a beaucoup de sectes satanistes.
Est-ce que c'est une réalité? Récemment, je crois, le Figaro Magazine a publié un magnifique reportage sur des églises de bois...
En Norvège.
En Norvège. Et pour mettre un peu de piment, au lieu de publier simplement des photos qui étaient superbes, ils ont titré ces chefs-d'œuvre que les sectes satanistes veulent brûler. Mais est-ce que c'est sérieux, ces sectes satanistes?
Oui, certainement. Il y a des sectes satanistes et lucifériennes, ou lucifériennes, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Il y en a, c'est certain. Les gens sont complètement déboussolés. Ils inversent les valeurs. Et vous avez des gens qui...
Il y a quand même des rockers. Ça,
il y a l'histoire du rock, le rock'n'roll, avec les travaux du père, je ne sais plus son nom, le Canadien, Rajabal.
Oui, on en a parlé souvent à ce micro. Effectivement, on a évoqué cette manipulation satanique par l'intermédiaire du rock'n'roll, et on y reviendra certainement un jour. Des appels d'auditeurs. Une auditrice dit je pense que c'est la même que tout à l'heure. Je serais heureuse que M. Pasqua soit invité à l'émission pour se défendre des attaques de M. Demekech. Voilà, j'invite M. Pasqua, il a qu'à me téléphoner pour prendre date quand il voudra.
Et surtout qu'il vienne seul et non armé.
Qu'il vienne seul. Une auditrice dit merci, il est revenu, merci, mais toujours aussi insolent, malheureusement. Je sais pas si je suis insolent, puisqu'un autre auditeur dit l'émission est très mesurée et intéressante. Donc la mesure et l'insolence sont deux choses qui sont
compatibles.
C'est compatible, vous croyez?
Tu es insolemment mesuré, je trouve.
Je veux dire aussi, ça c'est valable aussi pour le journal écrit, pour le livre journal de la France courtoise. L'insolence est la seule arme qui nous reste. Vous comprenez bien qu'on est dans un système véritablement totalitaire en ce qui concerne l'information. L'information est réunie entre les mains d'un tout petit groupe de financiers qui font travailler les journalistes qui leur conviennent, et elle est relayée par un tout petit réseau de radio et télévision qui sont toutes entre les mains des mêmes coteries. Donc, on est vraiment dans une situation de totalitarisme de l'information. Et si on ne fait pas preuve d'intolérance contre ce totalitarisme, et d'insolence...
L'intolérance, il y a des maisons pour ça.
Oui. Et d'insolence à l'égard de ces gens-là, on est vraiment des carpettes. Je ne comprends pas qu'on puisse reprocher à un journaliste d'être insolent.
J'ai même une vieille tradition.
Des carpettes ou des tapis?
Oui. Voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire des carpettes? Alors, tapis, par exemple. Tiens, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, déjà, sur tapis? Qu'est-ce que tu penses?
Moi, je suis pour, moi.
Oui, moi aussi.
Je suis pour. Je pense que ce pays de voyous mérite un voyou.
Moi, je trouve que le rêve, ça serait quand même ça. Ça serait qu'en 2002, peut-être même en 95, pourquoi pas en 95, on est face à face dans un grand débat d'une hauteur de vue que je vous laisse apprécier, l'honorable Monsieur Pasqua et le respectable Monsieur Tapie, qui confronteraient leurs idées, leurs projets pour la France.
Tous les cas, ce soir, je crois qu'il présentait un bouquin. Il a écrit un truc, ce type. Il a écrit un bouquin, Tapie, sur l'Europe. Ses idées, oui, il semble qu'il ait...
Mais est-ce qu'il l'a lu?
Est-ce qu'il sait où c'est, l'Europe?
Non, mais alors, je suis tout à fait d'accord avec ADG. Moi, je suis tout à fait pour Tapie, de plus en plus. C'est quand même un garçon qui est extrêmement sympathique. Et puis, en plus, je vois pas pourquoi on lui change des poux dans la tête. Parce qu'il déménage les meubles. Enfin, les meubles sont à lui. Il a quand même le droit. S'il a envie d'installer des meubles de collection dans un hangar d'Aubervilliers, que pour autant que je sache, il n'y a pas encore de police de la décoration, dit monsieur. Non.
Surtout quand ça fait plaisir à sa
mère. Puis on ne voit pas mégoter pour
ça. Fait travailler son beau-frère, et que tout ça, quand même, ne pas faire de peine à sa femme.
C'est mesquin. C'est mesquin, 30 milliards de
dollars. À propos de tapis, je trouve Goldnisch a été très très bon à l'émission de Madame Strauss-Kahn au 7/7. Il a été très très bon parce qu'il y avait une Guyanaise qui est sur la liste Tapie et qui a commencé évidemment à prendre feu contre le Front National. Et il lui a dit, mais écoutez, je vous comprends pas, parce que vous, vous êtes tout en Guyane, vous avez écrit des textes contre l'immigration des pays voisins de Guyane. Vous trouvez qu'il faut pas se laisser envahir par le Suriname et d'autres pays proches de la Guyane. Alors, je vois pas pourquoi il y aurait une loi spéciale pour la Guyane et une loi spéciale pour la France. Il a été très, très bon.
Et Tapie gagne des points toutes les semaines, on nous dit ça. Je me demande si finalement je vais pas.
C'est un phénomène.
Je vais pas adhérer à son mouvement qui s'appelle en plus Énergie Nouvelle. Et c'est vraiment quelque chose dont on a besoin.
Ah bah c'est tout à fait toi.
C'est moi, oui, tout à fait.
Ah, ça alors là.
Et Jean-Pierre, je voudrais te dédier un disque.
Jean-Pierre Cohen,
je voudrais te dédier un disque.
On me dédie jamais de disque à moi.
Oui, mais celui-là, tu vas voir, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Je tiens à dire, avant même à l'usage de la police de la pensée, que c'est pas un disque qu'on est allé déterrer dans des officines. Justement, dans des officines. C'est un disque tout ce qu'il y a de plus officiel. Je vais d'ailleurs en donner les références. Il s'agit d'un disque vendu par sélection du Reader's Digest. Alors, ce qui, en termes de politically correct, est ce qu'on fait de mieux. Hein. Il s'agit donc d'un disque intitulé « Quand les comédiens chantaient, de la scène au micro, enregistrements originaux 1930-1939 ». Et je vous donne les références. 98-27-42, ADE 682, compact disque digital audio, AAD, il n'y a pas ADG.
Il n'y a pas encore.
Non. Voilà, c'est un disque EPM musique, conception et réalisation technique Lionel Rissler, réalisation artistique et documentation Jacques Lubin, avec le concours de la Cinémathèque française. Donc toutes ces précautions oratoires étant prises, voilà ce que chante, si je ne me trompe pas, c'est monsieur Max Derli, et c'est une chanson qui s'appelle « Dissous ». D'ailleurs, il la présente lui-même, vous allez voir.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, puisque la mode est aux rétrospectives, permettez-moi de vous chanter deux petites chansonnettes que j'ai interprété pour la première fois au concert de la Scala à Paris en l'an de grâce 1900. Mais oui, mesdames, mais oui, 1900. Il y a donc exactement... Oui, enfin, il vaut mieux ne pas calculer. À cette époque, je ne possédais pas encore cette voix d'or qui me caractérise, mais en revanche, j'étais beaucoup plus jeune. Ceci compense cela. Ces deux chansonnettes auront peut-être, ou du moins, je l'espère, un double avantage. Pour les jeunes, l'attrait de la nouveauté. Pour les autres qui les auraient entendus jadis, celui de les ramener au temps de leur jeunesse. La première chanson est intitulée « La pièce de Dissous », paroles de Cellarius, musique de Gabriel Bunel. Un beau dimanche en matinée, puisque le curé se promenant dans les champs, aperçut la mine éveillée de trois jolis petits enfants. C'étaient des gosses du village. Il leur dit à celui de vous qui me fera la réponse la plus sage, je ferai cadeau d'une pièce de 10 sous. Pour ça, reprit-il à la ronde, vous allez me dire tous les trois ce que vous aimez le mieux au monde. Ah, ne parlez pas tous à la fois. Premier répondit, ce que je préfère, c'est mon papa, puis ma maman. Moi, dit deuxième sur la terre, ce que j'aime mieux, c'est un morceau de flan. Vous n'aurez pas la récompense, fit le curé, peu satisfait. Et toi, quelle est ta préférence? Dit-il à celui qui restait. J'en ai pas, répliqua le troisième, mais tout à coup, poussant un cri, « Si, reprit-il, celui que j'aime, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. » Bravo, cria l'ecclésiastique, ta réponse m'a beaucoup plu. C'est celle d'un bon catholique. Mais dis-moi, comment t'appelles-tu? En empochant la pièce promise, le gosse alors lui répondit, « sculpturé chez ma belle Moïse, Abraham, Isaac, Lévi.
Mais vous vous rendez compte.
Il a coupé au meilleur moment.
C'est vraiment intolérable. Hein, vous vous rendez compte que ce disque est en vente aujourd'hui, que Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses?
Toi, tu l'as piqué à Gobert, ça, j'en suis sûr.
Voilà. Donc, eh bien, voilà, nous voyons maintenant entrer, nous avons vu entrer notre excellent camarade Jackie Redon.
Et le studio est devenu plus petit.
Bonsoir, Jackie. Et je vais te demander, comme j'ai demandé à tous les journalistes du Libre Journal de France Courtoise qui sont présents ici.
Je sais que moi, j'ai répondu Ips. Tu peux essayer de faire mieux.
Je vais te demander de me faire un dessin. Voilà.
Bien, voilà, je suis en train de le faire, c'est pratiquement terminé. Voilà.
Non, ce que je dois dire, c'est que. Jackie Redon est non seulement un bon dessinateur, ça c'est évident, mais c'est aussi un des comment peut-on dire ça, un des êtres les plus cultivés qu'on connaisse. Hein. Écoutez, l'autre jour, je vais raconter cette histoire quand même en deux mots. L'autre jour, oui, ça va peut-être faire rire Redon certainement, mais notre excellente camarade
Anne Bernet,
qui va venir tout à l'heure, nous dit, je vais vous faire un article sur un écrivain. Qui est très intéressant, qui s'appelle Elémir Bourges. Je dois dire que, à ma courte honte, je tombe de mon haut et je dis, faites donc, ma bonne dame, un article sur Elémir Bourges, ça ne peut faire de mal à personne. Et j'appelle Jackie Redon, en lui disant, voilà, on nous parle d'un écrivain, dont personnellement je n'ai jamais entendu parler, et qui est un certain Elémir Bourges, et Jackie me dit, mais oui, bien sûr, et il commence à me décliner la liste principale des œuvres d'Elémir Bourges, et il me dit, d'ailleurs, j'ai son portrait, et je vais pouvoir en faire un portrait à mon tour. Voilà. Comme quoi, on peut être dessinateur, et pas totalement... oui, comment dirais-je?
Oui, pas totalement, en tout cas. Oui.
Pas totalement.
C'est pas totalement qui me fait plaisir.
Bien. Ce que je voudrais vous demander avant que vous nous quittiez pour laisser la place à vos petits camarades, non, tu veux pas partir, toi?
Bon, très bien.
Non, je fais cher rôle.
On est assis, il fait chaud, on est bien.
Ce que je voudrais vous demander, c'est de dire aux auditeurs, parce que moi je le sais, pourquoi vous avez choisi le métier de journaliste et quelle satisfaction vous y trouvez. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup. Je vais commencer par ADG. Alors, ne dis pas la vérité, essaye d'inventer quelque chose d'intéressant.
Non, j'ai pas choisi le métier de journaliste, j'ai eu envie de le faire. Lorsque je l'ai commencé, j'étais un petit peu déjà connu pour des romans que j'avais fait. J'avais envie d'être journaliste, c'est-à-dire je ne l'ai pas choisi. Il m'a paru que c'était important de le faire en plus, parce que ça pouvait me servir également pour mon travail de romancier, parce que ça me permettait de rencontrer des gens, puis ça me permettait de voyager gratos, et d'avoir des notes de frais. À ce propos, je me permets de redemander la question que j'ai posée à Jean-Pierre Cohen tout à l'heure. Est-ce que tu as signé mes notes de frais?
Elle est signée, tu sais bien.
C'est intéressant, oui. Merci.
Non, mais ça fait partie du travail de journaliste, comme de coller son timbre sur la carte de presse.
Ah, bon. Tu as mon numéro de compte, tu me vires comme d'habitude.
La commission.
Voilà.
Dis-moi une chose, quelle est la chose qui t'irrite le plus quand tu lis les journaux aujourd'hui, les quotidiens?
Ah, c'est l'inculture. Ça, alors là, c'est immédiat, c'est bien certain, c'est l'inculture complète de nos confrères.
Qui ne savent pas qui est Elémir Bourges, par exemple.
Par exemple.
Non, parce que tout à l'heure, quand j'ai raconté l'histoire, j'ai bien vu qu'il t'ordonnait, parce que lui aussi savait qui était Elémir Bourges.
Ben, bien sûr, mais j'étais bouquiniste. Donc j'ai des excuses, quand même. Et c'est vraiment la culture complète. Mais ça, je l'ai remarqué depuis 20 ans que je suis dans le métier. À chaque fois qu'on rencontre un confrère, qu'on se retrouve sur le terrain, et qu'on arrive à parler à peu près de choses et d'autres, on se rend compte qu'il n'y a aucune valeur, pas valeur, aucune connaissance commune, en définitive. Qu'ils ne savent rien, qu'ils n'ont rien lu, qu'ils sont des petits produits de petites écoles, qui les ont formés à différentes matières, et plus fécales les unes que les autres, mais que jamais, en tout cas, ils ne peuvent appartenir à cette fratrie culturelle. T'as vu comment que je cause ? Qui est la nôtre, parce que ils sont exclus par ignorance, par lourdeur, disait Céline dans une récente émission. Ils sont lourds.
Et ce qu'il y a de grave, c'est qu'ils sont pas relayés par les typographes dans les journaux. Parce que moi, j'ai connu des incultes journalistes déjà dès les années 50, ça commençait déjà. Mais il y avait toujours la barrière de sécurité, il y avait les typos. Les types qui avaient fait l'école estienne, les typographes et tout ça, qui avaient souvent une culture extrêmement solide et profonde.
Des vieux anards charmants, la plupart du temps.
Pas obligatoirement, mais en tout cas, culte, et non pas un culte. Alors que là, ça s'est complètement effondré.
Daniel Raffard de Brienne, vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes journaliste
Oui, vous me demandez comment je
par
choisis.
Par loisir.
Oui, voilà. À vrai dire, je n'ai pas encore choisi d'être journaliste. Simplement, on m'a demandé d'écrire des trucs, alors j'écris des trucs. Hein, ça s'est passé comme ça pour plusieurs revues, pour faire des bouquins. Ça s'est passé comme ça pour le Libre Journal aussi.
Mais
alors peut-être que je choisirai de journaliste un jour, mais faut que je me dépêche.
Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous ne lisiez ni Le Monde, ni Le Nouvel Observateur, ni Le Monde, ni Globe.
Non,
alors qu'est-ce que vous lisez finalement ?
Le Libre Journal, surtout mes articles. Aussi ceux des autres, d'ailleurs, je dois venir. Moi, dans mes articles, je cherche surtout les coquilles. Il n'y en a pas beaucoup, soyons honnêtes. Non,
on a une correctrice.
On a une correctrice, c'est pas
tout à fait. Absolument, efficace.
Premier
rang. Ce que je lis les titres des gens qui me tombent sous la main, et puis je fais les mots croisés.
Oui, chez nous, étant donné que Redon a cessé de nous fournir, nous n'avons plus de mots croisés.
Non, mais ça fait rien, on en trouve ailleurs. Parce que vous parlez de Nouvel Observateur, bon, je ne lis pas, mais quand je m'en tombe sous la main, il y a toujours d'excellents mots croisés de Scipion.
Et quelle est la chose qui vous irrite quand vous lisez la presse qui n'est pas celle que vous aimez ?
Oh, c'est la sottise en général, ce que disait ADG. Et puis, même dans tous les détails, ça m'a frappé ça d'ailleurs dès mon adolescence. J'ai été témoin d'un certain nombre de choses, de faits divers ou d'événements. Il n'y a jamais un détail exact dans les journaux. Jamais. Si on donne un nom, il est écorché. Si on donne des circonstances, elles sont fausses. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas rapporter les choses comme elles ont été. Et ça, tous les faits que j'ai pu connaître, j'ai vécu la guerre, un certain nombre de choses, je n'ai jamais vu un rapport exact.
Oui, et à ce propos, je lisais encore il n'y a pas très longtemps un article dans lequel il était question du mensuel présent. Un article contre, bien entendu,
qui
expliquait que le mensuel d'extrême droite présent était extrêmement nocif. Et donc ce sont des gens qui se permettent de porter un jugement sur quelque chose dont ils ne connaissent même pas l'existence.
Alors, et puis il y a un manque de rigueur dans le vocabulaire, ça c'est général. Les gens ne connaissent pas le français, et les journalistes peut-être moins que beaucoup d'autres. On utilise des mots, là, mensuel, bon, ça fera pas revue mensuelle, journal, tout ça, c'est pareil. Il doit être, je suppose, des synonymes dans leur tête. Alors, c'est ça aussi, ça frappe. Et ça déforme énormément les choses, simplement, parce que les mots sont mal utilisés. On lit des trucs épatants. Je me souviens d'un article dans le courrier Picard contre l'abbé Sulmont, où on parlait du maître d'hôtel pour le maître hôtel de la cathédrale. Enfin, ce genre de choses.
Oui, j'ai le souvenir d'une interview de Mgr Ducos-Bourget, interview au cours de laquelle la journaliste qui l'interrogeait lui disait « Vous êtes les gars du pape ?» Et il répond « Non, je suis chapelain de l'ordre de Malte ». Et elle dit « Oui, c'est un peu la même chose ».
C'est ça.
Tout ça, c'est du curé.
Les gars du pape, c'est les gardes suisses, non ? Qu'est-ce que c'est que ces gars-là ?
Ça vaut pas les gars de la marine.
Non, c'est ça.
Ça dépend quel usage. Jacques Houbard, alors vous êtes, je veux pas vous faire de peine, mais je pense que dans la profession, vous êtes le doyen du Libre Journal.
Premier article 1950.
Ça. Dans quoi ?
Le premier, ça s'appelait Action. C'était un journal de gauche dirigé par un communiste, Pierre Hervé, qui d'ailleurs a muté après. Et puis il y avait aussi un curé rouge qui s'appelait l'abbé Boulier. C'était mes... Alors là, ça s'est très mal passé d'ailleurs. J'ai commencé à ruer dans les brocards assez vite avec ces gars-là et ça allait très mal. Il y avait Dominique de Santi qui me persécutait parce que moi je disais que finalement parfois quand même Freud il avait dit des trucs qui n'étaient pas toujours idiots. Et alors à l'époque Freud était véritablement le démon quoi. Il fallait surtout pas prononcer le mot de Freud, et alors ça a accroché là-dessus. Enfin, et c'est là d'ailleurs où j'ai commencé. D'ailleurs, c'est bon comme expérience. C'est très très bon. Moi qui me suis passionné pour ce métier, justement pour me battre contre les mensonges, la connerie et tout. Et alors, bon, je me suis battu, j'en ai pris plein la gueule. Mais
vous pensez que c'était une bonne idée de se battre contre la connerie et le mensonge en travaillant dans la presse communiste ou par an?
Non, ça c'est pas pour ça que je l'ai fait a priori. Mais je raconte d'ailleurs ces trucs dans mon bouquin Dieu, César et les bourgeois. Je vais pas infliger ça aux auditeurs. Mais si vous voulez, il y a une chose que j'ai constatée à travers toute ma carrière. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux d'écrire au Libre Journal. C'est la première fois que j'écris librement. Vraiment librement. Et que je ne me sens pas persécuté, conscience violée. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la presse qui était dirigée par des financiers plus ou moins qui planent au-dessus de toutes choses et tout. Mais c'est bien plus grave que ça. Ce sont généralement des milliardaires rouges. Et ces gars-là ont choisi, comme Bouygues par exemple à TF1, toute une bande de journalistes gauchards qui se cooptent mutuellement les uns les autres. Et par exemple, quand la droite a fait des nationalisations, des privatisations de médias qui étaient nationalisés, ils ont cru qu'il suffisait de privatiser. Mais ça change rien, que ce soit privatisé ou pas, c'est toujours les mêmes gars qui se cooptent mutuellement. Et donc, la gauche, les noyaux marxistes sont là partout, installés dans toutes les chaînes de télévision, dans les chaînes... Moi, j'étais à l'ORTF pendant 4 ans et demi, et c'était la gauche qui dominait tout. Il y avait un chef, j'avais Pierre Cipriot, qui maintenant collabore à présent, qui était mon chef à France Culture, mais il dirigeait rien du tout. C'est même lui qui a signé ma lettre de licenciement, entre parenthèses. Oui, mais ces gars-là, ils sont toujours là. Ils sont là depuis les années 50. Ils sont indécrottables. Si on voulait vraiment épurer les médias, il faudrait pas faire des privatisations qui veulent rien dire, mais il faudrait changer les hommes, même des hommes quelconques, même des gens qui sortiraient pas du sérail.
Moi, je suis plutôt partisan de changer l'électeur.
De changer quoi?
L'électeur.
Mais tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Moi, je crois que c'est vraiment un problème de l'électeur. Je vais prendre un exemple. En France, les gens sont persuadés qu'il existe une pluralité de la presse. Et notamment, vous entendez dans les débats, sur les radios, et même quand des revues de presse sont faites, opposer ou mettre en parallèle l'Express et le Point. Or, il faut savoir que l'Express et le Point appartiennent au même groupe financier.
Oui, bien sûr.
Donc, de les mettre en parallèle ou en opposition, c'est une escroquerie, c'est une imposture.
Bien sûr.
Mais ça, c'est public. Tout le monde devrait le savoir. Et les gens qui disent « Moi, je lis le Point parce que c'est plus libre que l'Express » ou « L'Express parce que c'est moins compassé que le Point » ou l'inverse... ce sont des gens qui sont les dupes d'eux-mêmes.
Mais comment pouvez-vous faire? Ces pauvres gens sont complètement ligotés par cette presse. Ils trouvent généralement les mêmes raisonnements, la même conscience de classe et tout ça, que ce soit à TF1, à France 2 ou dans les hebdomadaires, ils trouvent toujours les mêmes genres d'esprit et de raisonnement. Donc, ils sont complètement trafiqué, manipulé par cette presse.
Je suis tout à fait
d'accord. C'est pas de leur faute.
C'est la raison pour laquelle je suis stupéfait de voir que des journaux, disons comme le mien, comme le Libre Journal de la France Courtoise, sont des journaux qui sont ignorés, parce que le réflexe normal du lecteur, c'est d'aller vers une information dont il peut s'attendre à ce qu'elle ait un caractère d'originalité et de nouveauté par rapport au ronron qu'il entend à longueur d'année sur toutes les télévisions, toutes les radios et dans toute la presse écrite. Et donc, il devrait avoir un réflexe, au moins de curiosité, on va essayer de voir ce que disent ces gens-là, qui sont des gens libres, au fond, qui ne dépendent d'aucun lobby, d'aucune coterie, d'aucun pouvoir financier, publicitaire, bancaire.
Surtout financier, je
crois. Ah ouais, ça on peut dire.
Ouais. Bon, oui, il y a un auditeur qui posait la question, d'ailleurs.
Ah ouais, non, mais...
Est-ce que les journalistes sont payés au Libre Journal? Non.
Mais non, personne.
Personne n'est payé. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Et c'est pour ça que je peux prendre des sanctions quand quelqu'un fait un article qui ne me plaît pas. Je dis, bon, ben, puisque c'est comme ça, je ne t'augmenterai pas la prochaine fois. Et c'est très dissuasif, n'est-ce pas, Jacques?
C'est vrai que... Pourquoi vous me dites ça à moi? J'ai eu la chance de ne pas avoir encore un refus depuis plusieurs mois.
Et donc, je pense effectivement, comme le dit Alain d'une manière plaisante, c'est une affaire de lecteurs. C'est vrai que si les lecteurs utilisaient leur formidable pouvoir, le formidable pouvoir dont ils n'ont pas conscience, ils pourraient exiger et obtenir que les journaux se comportent d'une façon plus honnête.
Mais ils utilisent ce pouvoir.
Non.
Mais si, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour faire de la désinformation, pour
ah non, tu parles des journalistes.
Je
parle des lecteurs.
Et on sort de ta cave, vieux.
Oui.
Ça enlève les
bouchons. Et puis, attention, il y a des pressions. Moi, j'ai travaillé pendant des années à Industrie et Technique. C'était pas un journal politique, encore que c'était dominé par la gauche et ils introduisaient toujours leur idéologie sous une forme ou sous une autre. Mais à Industrie et Technique, on n'était que deux à lire le Figaro le matin. Eh bien, j'ai un copain... Quand Mitterrand a été élu en 81, ils ont tous sorti leur rose rouge et tout leur machin et tout ça. Et à partir deux ou trois jours après, il amenait plus le Figaro au journal. Il avait la trouille.
Non, mais c'est bien.
Non, c'était pas un héros. Mais il y a beaucoup de mecs qui sont pas des héros. Et je vous jure que finalement... avoir une vie, je dirais pas héroïque, mais qui va un peu dans cette direction, c'est assez dangereux, finalement, du point de vue carrière.
Ça, c'est certain, oui. on est au courant. Jean-Pierre Cohen. Pourquoi?
Ben, moi, on m'avait dit que dans la profession, avec le nom que je portais, je réussirais sûrement. J'ai dû prendre la mauvaise voie.
À mon avis, il y a une erreur d'aiguillage au départ. Et la chose qui t'irrite le plus ou qui te scandalise le plus dans le fonctionnement de la presse aujourd'hui?
Eh bien, c'est la manipulation, c'est le mensonge, c'est la manière dont effectivement cette uniformisation, quelle que soit la manière dont c'est dit, présenté d'ailleurs par les différents journaux, mais on trouve toujours la même information qui tend à nous imposer des idées. C'est donc la manipulation, la désinformation qui me semble aujourd'hui la règle. La règle.
Jacques Hiraudon, est-ce que c'est quelque chose qui concerne aussi un dessinateur? Est-ce qu'il y a un poids de l'ordre moral, du politiquement correct sur le dessin, ou est-ce que
monsieur te demande si tu es parfois censuré?
Non, pas du tout. Il faut dire que je suis très gentil, alors... Ah, mais je m'attache surtout à faire une caricature, ce qui fait que je fais la tête des gens, je ne fais... Si je te mets très engagé, quoi. C'est-à-dire que je pourrais parfaitement donner les mêmes dessins à l'Humanité Dimanche, quoi.
Oui.
Mais je ne fais pas, t'inquiète pas, c'est un exemple.
C'est coupé.
Alors, pour terminer, je vais vous poser des questions extrêmement intimes, puisqu'il y a un abonné du Libre Journal...
Je tiens à dire quand même, pendant que j'ai la parole, que je me suis fait virer du Libre Journal, quand même. Parce que j'avais donné un dessin en retard.
Oui, mais c'est pas moi, tu sais.
Je suis le seul journaliste non payé à se faire virer de son journal.
C'est Françoise Vallée.
J'ai été réintégré deux jours après.
Moi, j'ai déjà été viré de plusieurs journaux, oui.
Exactement le même tarif.
Sans être payé.
Et un auditeur dit, mais quoi ressemblent les différents intervenants? Et alors, je ne vais pas m'étendre sur ces questions parce que ça serait... on rentrerait dans le gore, comme on dit maintenant au cinématographe.
Les trash.
Oui, mais quels âges ont-ils et où peut-on les rencontrer? Alors, pour ce qui est de les rencontrer, la plupart seront certainement présents le 26 juin, la journée du livre de Radio Courtoisie, puisque la plupart sont auteurs de livres. Jackie Redon, ADG, est auteur, mais plus depuis longtemps. Daniel Raffard de Brienne aussi est écrivain, Jacques Houbard également, et Jean-Pierre Cohen, toi tu n'as rien écrit.
Je n'ai encore rien écrit.
Mais tu peux venir pour acheter des livres.
Mais je peux acheter des livres.
Je croyais que c'était lui qui avait écrit La cave sur Rebif.
Voilà, je reçois un message, c'est pour ça que je suis un peu interloqué, qui me dit Ochienrad, j'arrive pas à le dire, Aslichas Vas Snova. Et ça va conclure.
C'est pas de Joseph Grec, ça, par hasard?
Non, c'est de François Guillaumat. Et ça me fait très très plaisir. Ça va conclure cette première partie d'émission.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Françoise Varlet. Document d'archives du 25 mai 1994, rediffusé dimanche 27 janvier 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Il y a énormément d'auditeurs, Serge, qui disent leur contentement de vous voir à nouveau à l'antenne. Et il y a même une dame qui dit qu'elle est vraiment ravie de retrouver son joyeux imprécateur.
C'est gentil, joyeux imprécateur. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les joyeux imprécateurs qui m'ont remplacé pendant les semaines où j'ai été absent. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure au début de l'émission parce que j'ai tout simplement oublié, alors que j'avais ça bien sûr dans un coin de la tête. Et je dois dire à Daniel, à Mich et à Alain Sanders, combien je leur ai de reconnaissance d'avoir assuré l'intérim. C'est pas toujours très facile, et puis de l'avoir fait avec autant de réussite, et leur dire que je les aime beaucoup. Voilà, j'ai la chance d'avoir des amis extrêmement précieux et extrêmement fidèles, ce qui est une façon de répondre d'ailleurs à un auditeur qui disait, je reviens sur cette question parce qu'elle est revenue dans les appels. Un auditeur disait, quel est le statut des journalistes du Libre Journal de la France Courtoise? Et ils sont tous totalement bénévoles, ils sont pas payés, parce que le journal pour l'instant n'a pas assez d'abonnés pour payer autre chose que l'imprimerie et le petit local dans lequel on est installé. Et donc ce sont des collaborateurs d'amitié, et c'est assez réjouissant pour l'âme, de savoir qu'on a autant d'amis qui ont autant de talent. Je ne sais pas du tout des paroles de convenance, parce que j'ai demandé à ces signatures de collaborer au journal, parce que j'aimais les lire ailleurs, et que j'avais envie de pouvoir continuer à les lire. Le meilleur moyen de pouvoir continuer à les lire, c'était de leur donner un endroit où elles pouvaient continuer à s'exprimer. Et je dis sans aucune fausse modestie que, à mon avis, la grande réussite du Libre Journal, c'est de permettre de rencontrer des gens comme ceux que vous avez entendus, c'est-à-dire ADG, Raffard, Houbard, Cohen. Je vais vous faire une confidence. J'aime beaucoup Raffard, Cohen et ADG, bien sûr, et depuis longtemps. Mais j'ai une petite tendresse, je dirais même une grande tendresse toute particulière pour, je peux le dire puisqu'il est plus là, pour Houbard. Parce que c'est un immense journaliste, ensuite c'est une intelligence étonnante, Et puis, c'est un homme qui a une pensée totalement originale. Et si vous ne me croyez pas, lisez son livre qui s'appelle « Dieu, César et les bourgeois », qui fait partie de ces bouquins inclassables. C'est-à-dire que quand on a lu ça, on peut pas dire « Ah, ce type-là, il est, c'est un tenant de la vulgate marxiste, ou c'est un type d'extrême droite, ou c'est... » Non, c'est simplement un homme libre. Et puis, la qualité essentielle de quelqu'un comme Jacques Houbart, que je suis très 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 fier de publier dans le journal, c'est que c'est un écorchéviste, un homme qui est dévoré de souffrance devant la crapulerie du système. Je crois que c'est un peu ce qui nous rassemble tous dans ce journal. Mais peut-être que lui, comme il vient de beaucoup plus loin, si j'ose dire, il le ressent d'une façon encore plus forte que les autres. Alors autour de la table, toujours Françoise Varlet, dont je ne saurais trop dire l'importance de son rôle dans un journal qui n'existerait pas s'il n'était pas là pour le faire, avec Philippe. Et puis, alors, Pierre Chaumeil. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Serge.
Alors Pierre, c'est l'Auvergne à Paris. Pas toujours à Paris, hélas. Souvent dans tes terres.
Sur mes terres.
Sur tes terres.
Ça viendra dans.
Ah oui, mais je le voyais pas, pardon. Il n'y a aucune urgence. À côté de Pierre Chaumeil, Jean-Sylve de Ventavon, qui est historien et qui publie, qui a eu l'idée de faire dans le Libre Journal une petite chronique qui s'appelle Un jour d'histoire, c'est ça?
C'est ça, un jour.
Pierre Monnier, qu'on connaît maintenant, puisque il faisait partie aussi de mon ancienne équipe, si j'ose dire. Anne Bernet.
Bonsoir Serge.
Bonsoir. Et puis Nathalie Banceau.
Bonsoir Serge.
Qui fait une rubrique très joliment intitulée « Rendez à César », et qui est une rubrique d'art, comme son nom l'indique. Et ce qui est très amusant, c'est qu'au début, dans les premiers numéros du Libre Journal, il y a eu quelques cafouillages d'orthographe, c'est-à-dire qu'on voulait rendre absolument à César... à César, le Romain, ça enlevait une partie de son sens à la plaisanterie. Alors, on a parlé du journal dans la première partie de cette émission. J'aimerais que là, on fasse une chose un petit peu différente, parce qu'on va pas parler du Libre Journal de la France courtoise pendant 3 heures. Je pense que vous avez compris que si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, il y a une façon simple de le recevoir, c'est de nous envoyer quelques timbres et votre adresse et on vous l'envoie. Et puis ensuite, vous vous abonnez et je précise d'une façon bassement mercantile que on a mis au point un système d'abonnement échelonné qui permet, qu'on appelle le pacte abonnement qui permet aux abonnés qui ont de petits moyens ou même des moyens normaux mais d'autres besoins que ceux de enfin qui les empêchent de dépenser 600 francs d'un seul coup, donc ils s'engagent simplement à nous envoyer au cours d'une période qu'ils définissent eux-mêmes l'équivalent du prix de l'abonnement, et nous on s'engage à leur envoyer le journal sans les assassiner de relance et de réclamations. Tout ça se passe 139 boulevard de Magenta.
Dans le 10e.
Dans le 10e arrondissement. Et vous écrivez au Libre Journal de la France courtoise ou au Libre Journal. Et si vous avez l'excellente idée de libeller un chèque, vous le faites à l'ordre de SDB, qui est le nom de la société de presse que nous avons créé pour publier ce Libre Journal. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais demander à mes invités, c'est de parler non pas de leur activité au Libre Journal de la France courtoise, mais de leur passion. Alors, ils ont tous des passions qu'ils ont exprimées récemment récemment dans des livres ou dans des ouvrages collectifs. Je pense notamment à Pierre Chaumeil, dont j'ai vu la signature récemment dans une encyclopédie du bien vivre ou quelque chose comme ça, où il y avait un article de monsieur Pierre Chaumeil qui était d'ailleurs tout à fait remarquable. Tu ne t'en souviens pas toi-même?
Non, mais je ne crois pas y avoir collaboré.
Eh ben alors, apparemment, ils ont trouvé que tu avais fait un très bon article et ils l'ont utilisé sans te prévenir. Voilà. Mais ils l'ont signé quand même. Oui, une auditrice dit fort justement, pardon, qu'il faut rendre hommage à Victoria qui n'est pas là ce soir. Alors je vais vous donner le secret de son absence. Rassurez-vous, contrairement à son habitude, elle ne s'est rien cassée. Parce que vous savez que Victoria est en cristal filé. C'est-à-dire que pratiquement une semaine sur deux, elle se casse quelque chose. Et j'ai envie de dire quelque chose de très méchant. Non, je le dirai pas. L'autre semaine, elle nous casse les pieds, mais non, c'est pas vrai. On l'embrasse et on l'adore. Et elle n'est pas là ce soir. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne raison, parce qu'elle travaille sur le futur Brignot. Elle met la main au prochain ouvrage de François Brignot, qui sortira prochainement. Donc voilà, c'est une c'est une bonne nouvelle. Oui, alors je disais donc que j'allais demander à nos amis présents ici de nous parler de leur passion. Mais avant, je vais donner la parole aux auditeurs en lisant leurs messages, si vous le permettez. Et je vais le faire en vrac. Alors, ça sera en désordre et comme les messages sont arrivés. Et la première question qui vient, il n'est pas là pour répondre. C'est un auditeur qui demande, je voudrais savoir si Monsieur Cohen est juif. Je peux pas répondre à sa place. Et comme bonne il est question. Parti, la question restera sans réponse. Un auditeur dit, que pense Monsieur de Becketch de l'appui apporté à Monsieur de Villiers par Jean Ferré, qui a souhaité la victoire du juge Jean-Pierre? Alors, je répondrai pour la entième fois que ce qu'il y a de merveilleux sur cette radio, comme Jean Ferré l'a souligné d'ailleurs dans une interview tout à fait remarquable qu'il a donnée à Actua Média, c'est que nous avons, dans le respect du cahier de charge, c'est-à-dire dans le respect des engagements que nous avons pris collectivement vis-à-vis du CSA, une liberté totale dans chacune de nos émissions. Et par conséquent, je considère que, bien évidemment, Jean Ferré est totalement libre d'inviter qui veut dans son émission, ça c'est la moindre des choses, et d'avoir les préférences qu'il veut. Je ne vous cacherai pas d'ailleurs que je serais pas mécontent moi-même de voir le juge Jean-Pierre figurer au Parlement européen, parce que, comme de toute façon j'ai pas la naïveté d'espérer que la totalité de la représentation française au Parlement européen sera, comment dirais-je, composée par des élus du Front National, il faut bien que je me fasse à l'idée qu'il y aura des gens qui seront pas au Front National et qui seront élus au Parlement européen. Est-ce que je suis clair?
Tout à fait.
Donc, s'il doit y avoir des gens qui ne sont pas du Front National au Parlement européen, pour ne rien vous cacher, j'aimerais mieux que ce soit des gens de chez De Villiers que des gens de chez Baudis. J'aimerais mieux que ce soit des gens de chez Baudis que des gens de chez Tapie. J'aimerais mieux que ce soit des gens de chez Tapie que des gens de chez Rocard. J'aimerais mieux que ce soit des gens de chez Rocard que tous les autres. Et à partir de là, je dois dire que d'ailleurs, je m'en fous absolument. Ça commence d'ailleurs à Tapie, mon indifférence. Mais disons, dans l'ordre, j'aimerais bien qu'il y ait au moins une quarantaine ou une cinquantaine d'élus du Front National, et puis ensuite une dizaine d'élus de chez De Villiers, et puis cinq chez Baudis, et puis le reste, je m'en fous. Vous voyez, donc on peut pas... Alors après, on dira que je suis pas tolérant et que je suis pas large d'esprit. Hein. Voilà. Et un auditeur dit qu'il a reçu une enveloppe sans indication d'adresse et qu'il a été obligé de payer une taxe car elle était insuffisamment affranchie. Et c'était la propagande électorale de Monsieur De Villiers. Mais non, mais ça c'est de la faute de ce monsieur, parce que une enveloppe sans indication d'adresse, on paye pas la taxe, on dit au facteur, monsieur, rapportez ça d'où vous, où vous l'avez trouvé. Oui,
bien sûr.
Un auditeur demande de faire le point sur les différents partis européens susceptibles d'entrer dans le groupe des droites européennes. Je ne peux pas, puisque je pense que le Front National y entrera, le Vlaams Blok. Peut-être un parti italien, l'Alliance nationale, je sais pas. Peut-être des Allemands.
Les Espagnols.
Les Espagnols aussi. Peut-être du Portugais, on sait jamais. Peut-être qu'ils auront des élus cette fois-ci. Mais ça, c'est très difficile de répondre parce que vous savez bien que ces questions se heurtent à des considérations nationalistes ou nationales qui ont fait d'ailleurs que le groupe des droites européennes de la précédente, de la mandature en cours, a été privé d'une partie de ses représentants naturels. dans la mesure où les Allemands et les Italiens se bouffaient le nez sur la question du Haut-Adige, question passionnante, vous vous en doutez, qui a fait que certains n'ont pas voulu adhérer au groupe des droites parce qu'il y avait les autres. Enfin bon, et ça se heurtera toujours à ce genre de considérations. Monsieur Tapie recueillerait, oui, ça on l'a déjà dit, pardon. Que pensez-vous de la libération d'un prisonnier sidaïque par monsieur Mitterrand? Ben, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je trouve ça très bien. Voilà. Parce que je vois pas du tout l'intérêt de... Bon, ce type est prisonnier, il va savoir ce qu'il a fait, trafic de drogue, vol, j'en sais rien. Mais il n'a probablement pas commis un crime qui mérite de mourir en prison. Alors Mitterrand a décidé de le remettre en liberté pour qu'il puisse aller mourir dans sa famille. Je dirais vraiment que c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et cet auditeur dit que se passerait-il si tous les prisonniers sidaïques étaient libérés? Enfin, ils seraient dans les hôpitaux au lieu d'être dans des prisons. Très franchement, moi je...
S'ils sont en liberté, néanmoins, ils risquent de contaminer d'autres...
Non, si on les le malade qui a été gracié, c'est un malade qui est grabataire, qui est pratiquement agonisant, je serais bien étonné qu'il aille faire la foire dans les boîtes de nuit parisiennes. Non. Moi, je trouve que Mitterrand a eu tout à fait raison. Voilà. Un peu d'humanité fait de mal à personne. Hein. Et récemment, nous dit une auditrice, un Italien, ça c'est une réflexion très drôle, un Italien a dit, Mitterrand dit qu'il est florentin, il doit supposer que Florence est en Sicile.
Très joli. Oui, c'est très bien. Très bien.
À propos des sondages, ne serait-ce pas un avantage des sondages d'orienter les électeurs indécis, comme les pronostics hippiques orientent les paris des joueurs qui consultent la cote avant de miser? Je suis certain que je suis certain que certains de nos concitoyens votent pour le gagnant.
Oui, probable.
Oui, c'est très probable. Dites un mot des diverses profanations dont a été victime la tombe de Jean-Pierre Stirbois et dont personne n'a jamais parlé. Oui, c'est vrai, nous on en a parlé et c'est constant, c'est répétitif et ça ne soulève évidemment pas la moindre protestation. Il faut prendre ces immeubles à Tapie car on ne prend les meubles qu'aux personnes qui n'ont rien d'autre. Ben, il a peut-être rien d'autre d'ailleurs. Que pensez-vous de l'émission d'hier soir sur FR3, les brûlures de l'histoire concernant le fascisme de Mussolini? Je voudrais vous dire une chose à propos des brûlures de l'histoire. C'est que je ne regarde plus cette émission parce que après l'avoir regardée deux fois, j'ai compris la coupure. C'est une émission strictement marxiste au sens pur du terme. C'est l'idéologie historique marxiste qui nous est assénée à jet continu. Et la meilleure preuve, j'ai fait un papier là-dessus dans le prochain numéro du Libre Journal, c'est que pour le numéro spécial consacré au débarquement de brûlures de l'histoire, ils ont invité Gilles Perrault, qui est un écrivain et un historien communiste. Les deux mots sont naturellement incompatibles, mais enfin, c'est le titre qu'il se donne. À expliquer le débarquement. Il y a des centaines d'écrivains qui ont écrit sur le débarquement, et il y a des dizaines de grands écrivains qui ont été capables d'écrire des grandes choses sur le jour J, sur le D-Day, sur cet événement immense dans l'histoire du XXe siècle qui a été le débarquement, et on va chercher un type qui est Gilles Perrault, dont tout le monde sait que c'est un truqueur et un menteur dans son travail d'historien. Je rappelle pour mémoire que Gilles Perrault fait partie du comité de soutien à Boudarel, et que Gilles Perrault a accepté d'apporter un témoignage filmé dans un film réalisé par le KGB, un film de propagande, dans lequel monsieur Gilles Perrault dit « La différence fondamentale entre la CIA et le KGB, c'est que la CIA a organisé des assassinats, alors que le KGB n'a jamais fait ça. » Bon. Et c'est ce type qu'on invite à nous raconter le débarquement du 6 juin 44. Donc, ne perdez pas votre temps, regardez pas les brûlures de l'histoire. Il y a beaucoup de livres à lire. Et il y a certainement autre chose à faire qu'à regarder ces émissions de télévision. Jacques Houbard revient parce que je crois qu'il veut nous dire un mot à propos de Gilles Perrault. Jacques.
J'ai travaillé dans la même collection que Gilles Perrault quand il a commencé sa carrière d'écrivain. Ou de pseudo-historien, Et ses sources principales étaient justement la police soviétique. Et il bâtissait toutes ces histoires, notamment sur les réseaux, par exemple, qui étaient infiltrés en Suisse, et sur des informations soviétiques. Donc ce sont ces informateurs, c'est sur la base de ces informations soviétiques qu'il a écrit ses premiers bouquins dans la collection La Guerre Secrète, qui était d'ailleurs dirigée par Constantin Melnik.
Oui, Constantin Melnik, avec lequel il a fait le livre sur l'Orchestre Rouge, je crois. Voilà. Pourquoi les Français ne réagissent-ils pas, nous demande un auditeur, face à tout ce que racontent les médias? Comment expliquez-vous ce phénomène? Ben, y a plusieurs explications. C'est probablement qu'ils sont asphyxiés littéralement. Et deuxièmement, c'est qu'ils n'ont pas de moyens de réagir. Comment voulez-vous réagir aux médias? En écrivant, mais leurs lettres ne sont pas publiées. Et par conséquent, ah oui, voilà. Alors, tiens, j'arrête, je reviens à ce que je me doutais qu'il y avait, j'ai pas entendu l'émission, mais je me doutais bien. Jean Ferré a dit dans son émission textuellement, je souhaite que toutes les droites soient représentées aux européennes. Autrement dit, il a dit exactement la même chose que moi. Hein? Voilà, on est d'accord. Une fois de plus. Oui, alors donc si les lecteurs ne répliquent pas à la désinformation, c'est, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils n'y sont pas sensibles. La deuxième, c'est qu'ils restent dans l'esprit des gens une espèce d'argument d'autorité qui faisait qu'on disait dans le temps « je l'ai lu dans le journal » et qu'on dit maintenant « je l'ai vu à la télé », donc on en conclut que c'est la vérité, parce qu'on l'a lu dans le journal et vu à la télé. Un auditeur nous dit « les journalistes jouent dans la même cour que les politiciens, c'est pour ça qu'ils ne leur cracheront pas dessus ». C'est évident, il y a une connivence entre la classe politique et la classe médiatique, l'un portant l'autre, comme disait l'excellent monsieur Vialat à propos des deux cousins. Un auditeur demande qu'on consacre une émission à Pierre-Antoine Cousteau. Tiens, notre ami Aramis qui vient nous rejoindre sera probablement favorable à cette idée.
Ah oui, moi je pense que c'est très intéressant. Je viens de lire... un ouvrage de Cousteau que je connaissais pas, mais enfin, je suis bien ignorant en la matière, qui s'intitule Les lois de l'hospitalité, qui avait été édité par Lecture Française, je crois, dans les années 60, et qui est plein d'humour sur des moments difficiles, mais également très édifiant sur le jugement que l'on peut porter sur les peuples et les lois de l'hospitalité telles qu'elles étaient pratiquées en 44.
Oui. et d'ailleurs, même avant.
Et antérieurement, bien sûr.
Donc oui, voilà une bonne idée. On fera certainement quelque chose sur Pâques. Et j'espère qu'on pourra faire, mais ça je me tourne vers Pierre Monnier, qui va nous en parler ce soir, mais peut-être qu'on pourra faire également quelque chose sur Céline.
Ah, c'est sûr. Hein,
dont c'est le centenaire.
C'est le centenaire, il faut pas le laisser passer. Hein.
Et je dois dire que là, on est obligé quand même de reconnaître que la télévision a fait un très très joli travail, parce que je crois que c'est FR3 qui a diffusé... Ah non, c'est pas FR3, c'est Arte.
Arte.
Pardon.
C'est
Arte. Ouais. Arte a diffusé lundi soir l'intégrale pratiquement de
deux documents
magnifiques.
Une interview avec Dumayet et l'autre avec Powells.
Avec Powells.
Qui sont des monuments.
Ouais. Et inséré un autre document sonore, lui, qui est également un monument. Qui est l'interview de Céline par un journaliste suisse.
De Zbinden.
Zbinden. Et il faut vraiment... si vous trouvez quelqu'un qui a enregistré cette émission, demandez-lui, à condition que vous ayez accepté le progrès au point d'avoir un magnétoscope, demandez-lui de vous prêter la bande. C'est vraiment un...
Jackie m'a dit tout à l'heure qu'il l'avait enregistré.
Jean-Cyl de Ventavon, visiblement, ne sait même pas de quoi on parle.
J'ai entendu parler du magnétoscope.
Il m'a regardé, j'ai dit magnétoscope, il m'a regardé comme si j'avais dit une chose
mystérieuse pour moi.
C'est la même réflexion tout à l'heure à propos des journalistes. Vous devriez préciser que les journalistes du Libre Journal sont bénévoles, ça oui, c'est fait. Dans les sondages, pour revenir aux sondages, il y a toujours des incertitudes, on peut se tromper, on ne parle jamais de l'écart type, il y a toujours environ... Alors ça, c'est assez illisible. C'est un pourcentage de risque de se tromper, la fourchette n'est pas absolue. les journalistes sont tous des pourris, il n'y a que le copinage qui marche, ben, la preuve d'ailleurs, on est entre copains là. Donc... Par contre, lorsqu'on lit l'humain, on sait tout de suite la couleur. Oui, ça, ah ouais. C'est indiscutable. Hein. Au moins, ça a le mérite de la franchise et de la clarté. Question à M. Redon, quand publiera-t-il ses dessins ? Eh bien, je pense qu'il les publiera prochainement, mais il est parti, Jackie Redon. Et je vais vous dire pourquoi il est parti. Parce que Pierre Chaumeil, qui ne se sépare jamais de ses munitions, est arrivé, me dit-on, pourvu de boissons liquoreuses. Non, pas liquoreuses, mais boissons fortes. Enfin, c'est pas ça, vrai ? C'est un mensonge ?
Les journalistes, certains au moins, sont des pourris.
Ah, oui.
Parce que je voudrais savoir, la bouteille que j'ai planquée sous l'évier dans le faux bar, bar fallacieux, je voudrais savoir qui acceptera d'en boire. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait personne.
Mais s'il en reste, quand on sortira du studio. Est-il normal que BHL parle de d'épuration ethnique sur Sarajevo alors qu'il ne dit pas un mot sur le Yémen? Oui, ben non, c'est pas normal, mais c'est comme ça, quoi. C'est
comme dans les voyages de Gulliver.
Qu'est-ce que tu peux préciser ta pensée, mon cher Aramis?
Non, mais il passe de la Bosnie aujourd'hui
à
autre chose demain. Il est certain, dans tous les cas, qu'il s'intéressera peu aux territoires occupés d'un certain pays.
En tout cas, oui, ça c'est probable, effectivement. En tout cas, je dois saluer son initiative, qui personnellement me paraît très heureuse, de présenter une liste Sarajevo, parce qu'il va faire probablement 3% de voix, qui va piquer très probablement un rocard, et ça ne mange pas de pain. Tout ce qui peut faire du mal à la liste socialiste est bienvenu.
Ça fait aussi beaucoup plaisir à tonton, je pense.
Oui, sans doute. Voilà, je crois qu'on peut en rester là. Il y a encore des appels, mais il y en a tellement qu'on y passerait le reste de l'émission. Salut tout particulier à Anne Bernet, nous dit une auditrice, de la part d'une arrière-petite nièce de Monseigneur le Minquier de Saint-André. Alors Anne, qui est Monseigneur le Minquier de Saint-André ?
Ah, c'était l'évêque de Tréguier pendant à la veille de la Révolution. C'est le Minquier, pas le Minquier.
Oui, c'est une erreur d'audition. La téléphoniste qui a noté le nom a probablement mal entendu.
Il fut le premier à condamner les...
Jean-Sylve.
Il fut le premier à condamner en chair les innovations de l'Assemblée.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un des premiers à s'en aller.
Oui, aussi.
Alors, j'ai dit donc qu'on allait maintenant, pendant la demi-heure qui suit, évoquer vos passions. Alors, je vais commencer par le doyen de cette illustre Assemblée, qui n'est autre que... Pierre Monnier, ben, je suis désolé de le dire, mais
on n'est pas plus aimable.
Écoute, tu peux pas nier cette évidence.
Quoi. Non, je ne le nie pas. 83 balais.
Voilà. C'est-à-dire 4 fois 20 ans d'un quatrième.
Mais ça m'a permis de voir pas mal de choses, parce que, par exemple, moi j'ai vécu le temps du Front populaire. Du point de vue culturel, on rencontrait des Jacques Lang partout, on a ramassé dans les ruisseaux, c'était extraordinaire. Mais j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque. Et de très grands souvenirs. Et surtout de leur action culturelle, à laquelle celle de Mitterrand, Jacques Lang, à côté de laquelle ça paraît quelque chose de très mièvre, peu audacieux, c'était extraordinaire.
Mièvre, quand on, sans doute.
Quand on voyait... sur la scène du Châtelet, je crois, une représentation de je ne sais trop quelle pièce de Jean-Richard Bloch qui s'appelait 1793 et qui se terminait par le chant de l'International avec Maribel le poing tendu en robe blanche au premier rang. Voilà, c'était un spectacle. C'était
mais elle a bien changé, Maribel, par la suite.
Mais bien sûr, mais comme tous.
Oui, enfin là, vraiment, elle avait bien changé.
Mais à ce moment-là...
Elle ne s'était pas attardée dans les eaux troubles du Front populaire.
C'était une période très, très drôle et très comique, parce que, comme les gens que nous avons connus depuis, les gens du Front populaire avaient vraiment la prétention d'être les seuls défenseurs véritables de la culture. Alors, on assistait à des réunions extraordinaires. Moi, je peux évoquer les souvenirs.
Mais
j'ai assisté à une petite réunion. J'avais été invité, d'ailleurs, parce que ils affectaient d'être très libres et très libéraux. C'était des jeunes intellectuels et des artistes peintres, surtout. Il y avait Francis Gruber qui était là. Et il y avait le sculpteur Lipschitz qui est venu nous retrouver à cette petite réunion. Ils étaient là une vingtaine. La moitié étaient des gens qui arrivaient des pays de l'Est, qui étaient des émigrants. Comme disait Céline, du moment qu'ils avaient l'accent de Bucarest, la porte leur était ouverte ici. Eh bien, ces gens-là faisaient des réunions, faisaient littéralement des cours. Ils nous apprenaient ce que c'était que l'art, d'abord la culture, tout ça. Ils étaient d'une présomption incroyable. Ils nous expliquaient vraiment ce que pouvait être l'art, la culture, l'intelligence, la littérature dans un pays. Et on entendait des choses comme celle-ci, que j'ai entendues. Le type qui était à côté de moi l'a dit. Moi, je récuse totalement Renoir. Et encore faudrait-il savoir pourquoi. Parce que, dit-il, il a peint le bonheur avant que la révolution stalinienne soit faite.
Mais ça, c'est vrai que Jacques Lang est complètement enfoncé.
Quand je le raconte, on me dit tout de suite, ça c'est ton côté farceur, inventeur. C'est pas vrai. Je l'ai entendu, il était à ma gauche, comme
sûr.
La place où est Philippe. Mais c'est pas Philippe qui aurait dit quelque chose comme ça.
Ça surprendrait beaucoup qu'Aramis ne dise ce genre de choses.
Mais il a été approuvé par la totalité de ceux qui étaient là, pour lesquels la révolution stalinienne, c'était vraiment ce que nous devions tous attendre, espérer, souhaiter, ce à quoi nous devions tous travailler, après quoi on pourrait peut-être parler du bonheur des peuples. Alors Renoir a été condamné ce jour-là, comme ça, liquidé, pour insuffisance stalinienne.
Ça a dû lui faire une peine terrible.
Terrible. Mais ça fait peut-être une peine terrible à Renoir, mais ça fait bien rigoler les deux ou trois de mon espèce, les deux ou trois camelots du roi, qui avaient été invités sous prétexte de libéralisme.
Tu as consacré deux livres à tes souvenirs.
Oui, j'en ai parlé de cette
histoire. À l'ombre des grandes têtes molles
et les pendules à l'heure.
Les pendules à l'heure. Oui. Que je recommande parce que c'est vraiment des livres merveilleux, passionnants, bon, qui fourmillent d'anecdotes de ce genre. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je t'ai demandé de parler de tes passions, tu t'es embarqué tout de suite sur ce sujet. Or, c'est vraiment ça.
C'est un exemple de ma passion. C'est le regard. J'aime regarder. J'ai passé toute ma vie à regarder autour de moi. J'ai pris beaucoup de notes. Je m'en sers d'ailleurs à l'heure actuelle. Mais j'ai toujours aimé énormément regarder les êtres, les individus, et les voir vivre, les connaître mieux. C'est pour ça que parmi les quelques livres que j'ai écrits, il y a des portraits, essentiellement. Quand j'ai écrit un livre sur Céline, ou sur Arletty, ou sur Jouhandeau, ce sont des portraits, ce sont des gens, effectivement, que j'ai aimés, pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration, mais ce sont des gens surtout que j'ai regardés, car j'aimais les voir, et les voir vivre, et apprendre quelque chose d'eux. Je crois que, une chose dont je me suis aperçu, c'est que, si un analyste ou un philatéliste essayait de s'intéresser à moi, il trouverait dans tout ce que j'ai écrit au moins 200 ou 300 fois le mot « regard ». Je m'en suis aperçu après coup. Parce que c'est une chose qui m'obsède. Donc ça entre bien dans ce que tu as dit tout à l'heure. Tu nous as demandé quelles étaient nos passions. Moi, ma passion, c'est de regarder pour bien comprendre et bien voir, bien juger, savoir comment venir. C'est pour ça que je fais un tri facilement entre tous les individus et que j'ai quelques-uns qui sont des amis auprès desquels je suis très content de pouvoir travailler à des conditions modestes.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire. La prochaine fois que tu verras, je te donnerai un stylo neuf. C'est un bic, je veux dire. Dis-moi une chose. Est-ce que tu continues à prendre des notes? Est-ce que on va un jour voir sortir des portraits de nous autres?
Mais je continue. D'ailleurs, j'en envoie quelques-unes au Libre Journal, d'ailleurs, de temps en temps. Mais je continue toujours. Oui, je prends des notes. J'aime beaucoup. J'en envoie aussi un petit peu à pas de panique, machin. Et à toi. Je t'en envoie.
Jean-Cyl de Ventavon, alors, bon, vous avez une passion qui est connue, puisque c'est votre
histoire.
Mais vous avez une autre passion dont j'aimerais bien que vous nous parliez, qui est très inattendue de la part d'un homme du XVIIIe siècle égaré dans le XXe. C'est une passion pour le fantastique.
Ah oui, c'est le fantastique.
La littérature fantastique.
La littérature fantastique, oui, la littérature et le cinéma aussi. Tout ce qui touche le fantastique. Je trouve que c'est d'abord une très belle évasion. Et ce sont souvent des histoires qui sont des histoires morales. Ce sont des histoires qui montrent que le mal, que Satan, est généralement vaincu par les forces du bien. J'aurais aussi souligné que il arrive fréquemment, et ça puisse que je viens de dire, que les écrivains de fantastique sont politiquement situés très à droite. J'en veux pour preuve que le fameux Lovecraft.
Oui.
Lovecraft est un homme qui se situait à l'ultra-droite de l'extrême droite.
Mm-hmm.
Et c'était un homme donc réactionnaire, entre guillemets, ce qui ne l'a pas empêché, et ça montre l'ouverture d'esprit des réactionnaires, toujours entre guillemets, que l'on considère souvent comme des gens obtus et très, très, très partisans. Lovecraft a mis le pied à l'étrier à Bloch, le fameux écrivain qui a écrit Psychose. Et ce Bloch était juif, Lovecraft n'aimait pas les juifs, il était antisémite, et ça ne l'a pas empêché de prendre sous son aide protectrice ce jeune écrivain israélite.
Quel est aujourd'hui bon, Lovecraft, c'est le
oui,
père fondateur, pratiquement.
C'est le classique.
On peut le considérer comme un grand
oui, principe. Aujourd'hui, malheureusement, il faut dire que les écrivains français écrivent peu de textes fantastiques. Le français n'a pas la tête fantastique, si je peux m'exprimer ainsi, encore que tous nos grands écrivains ont dans leur œuvre des textes fantastiques, comme ils ont d'ailleurs des textes érotiques. Mais enfin, la grande école littéraire fantastique est anglo-saxonne.
Et enfin, on a quand même Claude Seignol, on a...
Je ne suis pas sûr que l'on puisse vraiment classer Claude Seignol dans le fantastique pur. C'est plutôt un homme qui s'intéresse aux légendes, qui s'intéresse aux contes du terroir. C'est en fantastique, c'est vrai, mais ce n'est pas en fantastique qui s'introduit immédiatement dans le réel comme chez les auteurs anglo-saxons. Et les grands auteurs actuels du fantastique anglo-saxon, eh bien sûr, il y a Stephen King, encore qu'il soit un petit peu surfait et qu'il écrive souvent d'une façon inégale.
En tout cas, il écrit gros.
Il écrit gros, oui, et il est oui, épais.
On peut partir en vacances avec son livre. Pour les gens qui lisent pas beaucoup, ça fait le mois. Hein.
Et il y a alors un auteur dont on parle peu, qui, à mon avis, dont on commence d'ailleurs à parler, mais enfin dont on ne parle pas assez, mais qui a beaucoup de talent. C'est Graham Masterton.
Dont on va publier une interview dans le Libre Journal
la
semaine prochaine, je crois.
C'est tout à fait très bien. Et l'un de ses romans vient de sortir dernièrement, un bouquin qui s'intitule Tengu ou Tengu, je ne sais pas comment on prononce, c'est un nom japonais. Et bon, j'ai pas encore lu ce bouquin, je l'ai reçu en service, mais je compte le dévorer et puis écrire en compte rendu certainement pour le libre journal. Alors voilà, il y en a d'autres, il y a Kuntz ou Kuntz, je ne sais pas comment on prononce, il y a Herbert, pas Franck, j'aime Herbert.
Herbert, c'est la science-fiction.
Oui, Frank Herbert. Oui, il ne faut pas confondre justement la science-fiction et le fantastique, parce que ni le merveilleux, n'est-ce pas? Il y a trois.
Alors, par exemple, Tolkien,
branches.
c'est de l'ordre du merveilleux.
Pardon?
Tolkien, pour vous, c'est de l'ordre du merveilleux.
Ah, c'est du merveilleux, tout à fait. Bah oui, c'est du merveilleux. Moi, je ne suis pas très très séduit par. Ça m'ennuie prodigieusement ce que. Le roi des anneaux, oui, moi ça ne m'a pas, mais enfin bon, mais la science-fiction ne m'intéresse pas non plus. Encore que dans la science-fiction, et je ne sais pas si on peut classer ce thème dans la science-fiction, c'est l'Uchronie. L'Uchronie m'intéresse beaucoup et m'amuse beaucoup. Il y a des choses passionnantes. J'avais d'ailleurs écrit une nouvelle uchronique. Dans les comptes.
Je crois que j'étais ministre de l'Intérieur.
Les comptes, voilà, vous étiez. Non, vous annonciez au balcon du palais d'Avignon l'avènement de Monseigneur le Duc d'Anjou, qui enfin devenait roi.
Enfin, en tout cas, je m'arrangeais pour être dans le coup.
Ah bah, vous étiez là, oui, bien sûr, vous étiez
là. Est-ce que cette passion pour le fantastique est. Vous disiez que les auteurs de fantastique sont souvent des gens de droite. Est-ce que les lecteurs sont aussi des gens de droite plus...
Bon, ça, c'est une question à laquelle je serais bien embarrassé de répondre. Je crois qu'il y a un petit peu de tout. Et je crois que pour trouver vraiment une idéologie dans un roman fantastique, il faut être, comme moi, très braqué sur la chose. Parce que, bon, c'est vrai que ce sont des gens qui sont réactionnaires, les trois quarts. Mais il faut vraiment vouloir le voir pour le voir. Alors je crois que non, que le lectorat du fantastique se recrute.
On peut peut-être poser la question autour de ce micro. Est-ce que Aramis, par exemple, ou Anne Bernay, ou Nathalie Manceau, ou Pierre Chomeil ont une passion pour la littérature fantastique, ou au contraire une grande indifférence?
Oui, moi rien du tout. J'avoue que je suis alors sur une autre planète.
Anne.
Oh, il y a fantastique et fantastique. J'aime bien Masterton. L'ombre du Manitou est un grand livre.
Oui,
il y a des sous-entendus extrêmement amusants. Et je pense que Michel de Flandre en parlera dans son entretien avec Masterton précisément.
Nathalie.
Je connais fort mal la littérature fantastique. Chez les Français, on aurait peut-être pu parler de Villiers-d'Isle-Adam.
Oui, mais je l'ai bien dit, n'est-ce pas? Tous les grands écrivains français ont écrit des textes fantastiques, mais ça n'a pas été leur spécialité. Ouais. Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Mérimée et combien d'autres. Mais ils n'ont pas fondé leur gloire, comme l'ont des autres du XVIIe siècle, sur le fantastique.
Je n'ai rien à voir, évidemment, mais je pense quand même à ça.
Je crois que Chomeil veut dire un mot. Pierre,
je vais dire un simple mot sur le fantastique. Mon fantastique se borne, et j'ai de bonnes références, à Jacques Perret et à Marcel Aimé. Car il y a du fantastique.
Oui, il y a du fantastique. Oui, il y a du fantastique, naturellement.
Et
le passe-muraille. Oui.
L'homme n'est que poussière, de là l'importance du plumeau.
Mais il y a. Je voudrais dire un mot sur un auteur français de fantastique, justement, et qui n'écrit que des œuvres fantastiques avant-guerre, c'était Maurice Renard.
Oui,
et Maurice Renard est relativement peu connu, sauf autour de cette table, si j'en juge par les remous. Et je voudrais...
C'était un fou total.
Total, mais était raide fou. Mais je voudrais signaler que l'on est en train de rééditer certains de ses livres. On vient de rééditer Les Vacances de Monsieur Dupont. C'est une maison belge qui a fait ça, Gramma. Et c'est un type qui était, comme vous le dites, cher ami, et comme je le répète, raide fou, oui. Mais qui avait une imagination débordante. Ah,
oui. Complètement débridée.
Et puis il y a Gaston Leroux aussi, il ne faut pas oublier.
Gaston Leroux,
la double vie de Théophile Rastelot-Longuet.
Maurice Leblanc également.
Et Maurice Leblanc.
C'est pas fantastique, Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, non, il y a un lien fantastique social peut-être, mais Leroux, c'est plutôt de la science-fiction.
On a reçu, j'ai reçu à cette émission... Monsieur Ferté, qui a écrit un livre, je viens de le relire là, en profitant de mon absence, qui s'appelle Arsène Lupin, initié supérieur.
Ah oui, il y a toute
quelque
une
quelque chose d'incroyable
oui,
sur
une
les,
lecture,
les
oui.
arcanes des livres de Leblanc. Et alors tiens, Philippe, toi qui aimes Arsène Lupin et qui fait la fine bouche devant le fantastique, il faut lire ce livre de Ferté, qui est paru chez Très Daniel, qui est vraiment un bouquin incroyable. C'est le résultat d'une enquête complètement folle sur les secrets, sur les arcanes
C'est une lecture de l'œuvre de Leblanc à travers les lunettes du fantastique.
Et à travers il conduit à l'affaire de Rennes le Château.
Même une lecture initiatique. C'est extrêmement intéressant.
Vous avez publié tout récemment, Jean-Cyril de Ventavon, un livre pour lequel vous êtes déjà venu raconter.
Qui
n'a rien de fantastique.
Non, c'est biographie du général de Frotté.
Une biographie de Frotté. Est-ce que vous avez l'intention de publier un jour un roman fantastique, après tout?
Mais j'ai publié, c'était le premier ouvrage que j'ai publié, j'étais tout petit, j'ai publié un bouquin qui s'intitulait « Le coffret d'ébène » et qui était composé de nouvelles fantastiques. Mais dans l'immédiat, non, je n'ai pas... J'ai des sujets de nombreuses nouvelles, mais comme je vous le disais tout à l'heure, les éditeurs français boudent le fantastique écrit en français, et de plus, ils boudent les nouvelles. Alors, les nouvelles fantastiques, ça fait beaucoup pour être édité par un éditeur. Non, mais je prépare un autre livre sur les guerres de Vendée, c'est-à-dire sur les deux premières guerres.
On attend ça avec impatience et
vous êtes gentil.
Nous en parler. Anne Bernay, Anne Brassier vient de nous rejoindre.
Bonjour.
Vous êtes, ma chère Anne, aussi ravissante qu'à l'accoutumée, mais en plus vous êtes d'une élégance rare.
Pour Serge, qu'est-ce qu'on ne ferait pas?
Anne, vous venez de publier... Alors, vous publiez dans le Libre Journal de la France courtoise une rubrique que j'idolâtre. Voilà, le mot est dit, littéralement. Ce sont des portraits d'écrivains plus ou moins connus. Alors, vous nous avez fait le coup d'Elémir Bourges. C'était bien, mais c'est pas le seul. Il y a eu d'autres écrivains qui n'étaient pas des célébrités mondiales. Ce qui est très amusant, c'est que pour la plupart, la quasi-totalité des portraits qu'on a publiés jusqu'à présent, c'est-à-dire une 37, ce sont des gens de, ou des Vendéens, ou des Normands, ou des Bretons.
Je suis bien obligé de reconnaître que sans les provinces de l'Ouest, la littérature française sera amputée de beaucoup de monde. Ce n'est pas du chauvinisme.
Non, non, rien non. à voir. Bien sûr.
C'est du fanatisme.
Bon, en dehors de cette passion chauvine, quelle est votre passion secrète? Est-ce que vous envisagez, par exemple, de faire du cinéma? Je vous pose cette question parce que un auditeur nous dit quelle joie d'entendre Anne Bernet qui ne vient pas souvent à Radio Courtoisie. Elle pourrait tout à fait jouer le rôle de Jeanne d'Arc.
Oh, miséricorde.
C'est une idée, effectivement.
J'ai 10 ans de trop, quand même.
Ça ne se voit pas, ma chère.
Merci.
Alors, bon, donc, le cinéma, on écarte. Est-ce que vous avez une passion secrète que vous voudriez nous livrer?
Passion secrète, je ne sais pas. Je vais être très convenue si je dis qu'en dehors de la littérature, de l'histoire et de mon militantisme royaliste, il n'y a pas grand-chose à dire.
Que votre dernier livre, c'est Bernadette Soubirou. C'est un portrait de Bernadette Soubirou. C'est un bouquin, je le précise, tous les gens qui l'ont lu finissent par confesser qu'ils ont pleuré à un moment de la lecture.
Et moi, je vais confesser, je pleurais en écrivant le dernier chapitre.
Voilà. Alors, cette rencontre s'est faite comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, de cette passion pour cette...
Je suis arrivée un jour chez Perrin et j'ai dit que j'avais envie de faire une biographie de Sainte-Thérèse de Lisieux, dont le centenaire tombe en 97. Et François-Xavier de Vivy m'a dit « Mais vous allez me donner quelque chose d'ici là quand même ». Il m'a dit « C'est le 150e de la naissance de Bernadette Soubirou, personne n'en veut, prenez-le ». Dire que j'étais folle d'enthousiasme, ce serait très exagéré. J'ai accepté, je ne sais pas pourquoi, parce que je me suis dit « Autant moi qu'une autre ». Et je me suis mise à la tâche avec les pires angoisses en me disant « Qu'est-ce que je vais faire avec Bernadette ?». Et plus je travaillais, plus je me suis rendu compte que c'était une fille merveilleuse que les hagiographes avaient au fond complètement défigurée.
C'est un peu le cas aussi de Sainte-Thérèse de Lisieux.
C'est également le cas de Thérèse de Lisieux.
Vous travaillez sur...
Pas pour le moment. En ce moment, c'est Madame de Sévigné. Pas tout à fait la même chose.
Effectivement, ça boxe pas tout à fait dans la même catégorie, si j'ose dire. Mais, alors donc, Bernadette, parce que entre la jeune fille royaliste des années 80 vendéenne...
Non, pas vendéenne.
Pardon, j'étais sûr que j'allais dire une bêtise. Chouanne, c'est ça oui. que je voulais dire. Voilà.
C'est la Vendée militaire, malgré
tout. C'est la Vendée militaire, donc, mais je ne suis pas de la Vendée.
Non.
J'insiste.
Et la petite. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, Bernel.
Oui, c'est ça.
C'est en Berne, oui. Il y a apparemment peu de ressemblance. On se demande où vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui vous a fasciné, qu'est-ce qui vous a plu finalement, qu'est-ce qui a fait que vous avez fait un livre aussi en amouré.
Sa ressemblance avec Jeanne d'Arc. Oui. Plus je travaillais, plus je me suis rendu compte que c'était la petite sœur de Jeanne. Et ça m'a totalement fasciné. Je me suis dit, mais on a fait d'elle une espèce de scène de vitrail figée dans ses apparitions, alors que c'est une guerrière, c'est une battante qui s'est retrouvée enfermée dans un couvent, murée par la maladie, clouée au lit, et qui était faite tout à fait pour autre chose. Et plus je la regardais vivre, plus j'étais éblouie par cette personnalité qui a été contrainte par le 19e siècle et par la morale de l'époque à une vie qui n'était pas faite pour elle, et qui est parvenue malgré ça à la sanctification.
Par miracle, on peut le dire, là, ça a été vraiment imposé d'en haut, cette sanctification, parce que l'hostilité était énorme.
Terrible. Non pas tellement des ecclésiastiques, mais du couvent lui-même, où on continuera, bien après la mort de Bernadette, jusque dans le début du siècle, à penser qu'au fond, tout cela était peut-être faux, que les apparitions de Lourdes étaient peut-être fausses, parce que Bernadette, c'est une fille du peuple, C'est quelqu'un qui n'était pas digne de voir la Sainte Vierge. Est-ce que ses supérieurs lui répéteront sans arrêt, Bernard, vous n'en étiez pas digne. D'ailleurs, la pauvre enfant finira par s'en persuader. Et le merveilleux, c'est qu'elle supporte tout cela, elle monte, elle grandit sans arrêt dans la foi, en lumière. C'est une aventure assez exceptionnelle, c'est une aventure silencieuse.
Est-ce que ça vous a changé, vous, intérieurement, de faire ce livre?
Ah, j'ai découvert autre chose, oui, certainement. Quelqu'un d'étonnant, une idée de la sainteté qu'on n'a pas habituellement, oui.
Alors, vous avez une autre passion, je ne sais pas si on peut la vérifier ce soir, je n'ai pas pensé à le faire, à prévenir, c'est la musique.
La musique, c'est un grand mot, je suis incapable de lire une note de solfège, mais c'est un autre problème. Mais la chanson, oui. Ça, tout simplement parce que j'écrivais des vers depuis très longtemps. Un jour, vers 17 ou 18 ans, je me suis dit, c'est absolument ignoble ce que tu écris, ma pauvre fille. Je me suis dit, si tu le chantais, ce serait mieux.
Donc, contrairement à ce que disait Victor Hugo, il fallait déposer de la musique le long de ses vers.
Voilà.
Anne, on va passer de l'une à l'autre. Anne Brassier.
Moi, je voudrais encore plus dans le livre d'Anne. Cette histoire de Sainte Bernadette, il y a beaucoup d'humour. Tu sais, si les livres religieux sont quelquefois... On se dit, oui, je les lirai plus tard. Et j'ai été surprise par l'humour d'Anne, qui montre l'insolence de Bernard et l'insolence d'Anne Bernet, il faut bien le dire, face au milieu religieux et au milieu bourgeois de cette époque. Et ça, j'avoue que c'est une des grandes forces de ce livre. Anne Bernet ne se prend jamais au sérieux, ne prend pas Bernadette au sérieux. Il y a une force de persuasion dans cette histoire qui est tout à fait nouvelle. Et même quand on a été à Lourdes et qu'on est resté finalement un peu sceptique parce qu'on ne croit jamais au fond de soi-même au miracle, enfin, en tout cas c'est mon cas, quand on lit ce livre, on est plongé dans un autre monde et devant une vérité.
Alors, on va peut-être parler d'Anne Brassier maintenant, après avoir parlé d'Anne Bernet. Vous, votre passion, c'est le livre
lire.
De poche, visiblement,
c'est
puisque
lire.
Vous avez une émission sur Radio Courtoisie qui est consacrée au livre de poche et une rubrique dans le Libre Journal de la France Courtoise qui est consacrée également au livre de poche, qui relève de l'obsession. Quand vous n'écrivez pas, vous lisez.
Absolument. Et quand je ne lis pas, quand je n'écris pas, je fais lire les autres en leur disant « Mais prenez donc ce livre, il est très bon ».
Alors, en dehors de votre fils et du livre de poche ou pas, est-ce que vous avez une passion cachée?
J'en ai beaucoup. En vous écoutant sur la route en venant, je me disais, mais je devais être une vieille dame très agitée. Mais oui, beaucoup. Un peu de politique, je crois.
C'est nouveau, ça, quand même, non?
Non.
Parce que je me souviens d'une Anne Bernet qui... au début des émissions de Radio Courtoisie, quand j'avais le malheur d'employer le mot nègre dans mes propos, venait me dire écoutez, je trouve vraiment très déplacé l'usage de ce mot.
Non, moi c'était pas par esprit politique, là, c'est parce que je rentrais d'Afrique où j'avais enseigné pendant un an et donc pour moi les Africains étaient des amis. C'était pas un comportement.
Ça n'empêche pas les nègres de faire des amis,
oui,
aussi.
Non, ça n'était pas un comportement politique, Serge. Le combat politique. Bon, quand on a 18 ans été à Nanterre, 17 ans, et qu'on a eu toutes ces années universitaires foutues en l'air par des crétins parce qu'il fallait faire la révolution, et qu'on a été pratiquement matraqué tous les jours, physiquement et intellectuellement, on en garde des séquelles et on devient très très allergique à toute propagande. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je ne cherchais pas la politique, mais elle m'a trouvé et j'avoue que j'ai juré qu'en 68, que jamais on ne me ferait prendre des vessies pour des lanternes.
Et vous êtes allé assez loin dans ce militantisme parce que c'est quand même pas très très courant. Vous êtes maintenant chroniqueuse à présent, et là, oui. Vous faites des petits billets qui sont des billets de politique, finalement.
Quelquefois, tout est politique, je crois que un grand homme de chez nous l'a dit. Tout est politique et tant que les gens n'auront pas compris qu'il y a d'un côté les hommes politiques tous véreux et le bon peuple très sain, on va à la catastrophe. Si chacun ne fait pas de la politique tous les matins, on laisse ce travail à d'autres et ce travail est mal fait.
Est-ce que ça veut dire qu'un jour on va voir Anne Brassier sur une liste ?
Non, je crois pas, parce que je crois que ces gens qui font ça par chez nous sont extrêmement généreux. Ils donnent leur temps, ils donnent leur intelligence pour leurs concitoyens. Et j'avoue que moi, je sais pas si ma générosité ira jusque-là.
C'est vrai que c'est le problème.
Je trouve que c'est une activité qui est dévorante. Alors là, j'arrive à faire coïncider ma passion de la lecture avec ma passion du combat politique, mais aller militer comme font ces gens que j'admire, en allant serrer des mains à des gens auxquels ils n'ont pas toujours envie de serrer la main, et essayer de convaincre des gens qui ont toute possibilité d'être convaincus, mais qui ne feront pas cet effort intellectuel, ça me paraît surhumain, et j'avoue que, très modestement, j'ai pas ce courage. La vie est courte.
Dans un tout autre ordre d'idées, puisque vous êtes lectrice et vous choisissez, vous nous disiez tout à l'heure que vous choisissiez des livres et que vous incitiez les gens
à
les lire. Oui. Quel est le critère de choix ? Est-ce que la politique rentre dans ce... Dans ce critère.
Pour une part, mais je peux très bien aimer la belle écriture. La belle écriture est évidemment déterminante et le donne un bonheur fou. Donc c'est la belle écriture d'abord et la belle histoire ensuite, parce qu'un livre, ça reste un livre d'histoire. Et on n'a pas parlé tout à l'heure dans le fantastique des contes et légendes.
Oui,
pour moi, les contes et légendes sont des livres de fantastique, et j'avoue que j'ai...
Oui, mais c'est du merveilleux, ça, c'est pas du fantastique.
C'est du merveilleux.
C'est du merveilleux.
D'accord.
C'est du merveilleux.
D'accord. Et puis ensuite, bien sûr, des livres qui expliquent le monde, que ce soit des livres d'histoire, des livres de philosophie ou des livres de politique. Tout ce qui aide à comprendre, tout ce qui permet de mieux saisir le monde dans lequel on vit. Sont des livres importants et doivent être répandus.
Alors après Brasillac et Lavarande, qui ?
Oh, pour l'instant, il y a encore plein de gens merveilleux, mais non, pour l'instant, il n'y a pas encore de projet précis. C'est dévorant et puis il faut laisser les livres vivre, il faut... s'en occuper après, il faut parler d'eux, il faut continuer tout un travail de conférences et d'informations qu'il faut réunir. Je m'occupe beaucoup des associations de Robert Brasillac, des associations des Amis de Lavarande. Il y a des tas de correspondances qui arrivent, il faut emmagasiner tout ça et le redonner. Donc il ne faut pas foncer tout de suite sur un autre sujet, on est encore plein de son sujet.
Pierre Chomeil est connu comme un gastronome, un gourmand.
Un
gourmand de tout, des bonnes et belles choses. Mais il est connu aussi comme un Auvergnat fieffé.
Militant,
pour
le dire.
Bon. Est-ce que ça suffit à faire une passion, l'Auvergne ?
Non, mais j'en ai beaucoup de passions. Mais il y en a deux, je pense qu'il y en a deux dont il faut parler. Dont je ne peux pas me passer de parler, c'est que je suis obsédé par la continuité. Je pense que une nation, un peuple, une patrie vit par la continuité. C'est pour ce qui m'a amené à être royaliste. Je ne suis pas royaliste, je suis pas un blanc du midi, je suis un royaliste de raison, si je peux dire. Depuis assez jeune, mais j'étais plutôt un art quand j'étais tout jeune. Et je trouve que c'est un bon démarrage pour être monarchiste, d'être anarchiste d'abord. Parce que...
Au fond, moi je crois profondément que c'est la même chose.
C'est presque
la même chose. L'anarchiste est quelqu'un qui a une telle idée de l'ordre qu'il n'accepte pas la caricature.
Les anarcho-individualistes veulent sur les vrais.
Pas les petits crapules
trotskistes. Ils veulent surtout qu'on leur
foute la paix. Voilà.
Si je peux me permettre de dire une chose, Pierre...
Pour être extrêmement libre, il faut qu'ils aient un pouvoir au-dessus d'eux qui les protège.
Illustration Charles Maurras, la monarchie c'est l'anarchie plus un.
Non, c'est pas Maurras qui a écrit ça, hein. C'est les gens de la nar.
Oui, mais je crois que c'est Thierry
Mais Pujot, le père Pujot, Maurice Pujot, a été anarchiste et est arrivé là, à la monarchie.
L'autorité en haut, voilà. Les libertés en bas.
Exactement. Le roi en ses conseils, le peuple en ses états.
C'est voilà, ça, d'accord.
Alors, de là, ensuite, pour cette continuité dans les familles, dans le patrimoine, alors c'est pour ça que j'aime bien le bien manger français, même étranger d'ailleurs. Il faut donc une continuité, il faut assurer la continuité. Ensuite, pour préciser, j'ai la passion de la réaction. D'abord, je voudrais dire que la réaction, c'est le moyen technique le plus moderne qu'on ait inventé pour avancer vite. Hein. Et si l'action, c'est le Coca-Cola, le fast-food, et je ne sais quoi d'autre, et M. Althusser ou M. Freud, alors là, il faut vraiment faire quelque chose, il faut être réactionnaire. Je suis essentiellement réactionnaire.
Et on peut lire tes réactions dans le libre journal de la France courtoise, tous les 10 jours.
Je fais peu de politique, en fait, dans mes articles. Enfin, encore que de temps en temps, je crois que j'ai parlé de Kurnonski. Peu de gens savent qu'il est l'arrière-petit-fils d'une sainte. Enfin, disons ça. Sainte avec un petit S. Hein. Voilà.
Merci. Et ben, il nous reste deux invités.
Je voulais ajouter une petite chose en vitesse. Je t'ai entendu, Serge, parler d'insolence quand je n'étais pas dans ce studio. Et ensuite, vous avez appris le mot d'insolence. Je dis que les journalistes, il leur est très difficile d'être insolent parce que ce que l'on oublie de dire, c'est que les journalistes en général, ces pourris dont un auditeur a parlé tout à l'heure, sont des salariés, sauf nous. C'est formidable. Et non, mais c'est vrai, sont des salariés.
Il n'y a pas un seul insolent véritable parmi ceux-là.
Parmi ceux-là, c'est très difficile. Il faut qu'ils mangent et qu'ils nourrissent leur famille. Mais je pense que l'insolence, excusez-moi de vous couper, Anne, l'insolence, c'est une vertu. Et c'est Brasillach qui l'a célébré dans la préface à un procès de Jeanne d'Arc. La vertu d'insolence. Ouais. Jeanne d'Arc est insolente envers ses juges. Elle leur dit non, ça ne vous regarde pas, c'est entre Dieu et moi. Terminé. Mais j'ai terminé.
Merci bien. Et Aramis, en deux mots, en dehors des soldats de plomb.
On ne va pas parler des soldats de plomb à la radio, c'est pas...
C'est pas très radiophonique.
C'est pas très radiophonique comme sujet. Non, je crois que ce que disaient Pierre et puis les deux Pierres d'ailleurs correspondent exactement à ce que l'on ressent aussi. C'est qu'on a une passion pour l'amitié, le plaisir de se retrouver ce soir, parler de certaines choses, d'apprendre aussi. C'est vrai, la passion peut-être de l'enracinement et effectivement de la continuité dont parlait tout à l'heure Pierre Chaumet. Bon, j'ai découvert grâce à lui beaucoup de choses, je peux le dire. Des boissons roboratives notamment, mais pas uniquement des boissons roboratives. Des bons mots qui accompagnent ces boissons roboratives et puis des anecdotes, une connaissance.
Alors toi, comme adepte de l'insolence, on fait pas mieux puisque tu publies dans le Libre Journal une des chroniques les plus insolentes du journal, tellement insolente même que certains lecteurs ont écrit, qu'un lecteur a écrit à la griffe pour dénoncer un article qui avait été fait, je crois, sur Jeanne d'Arc, qu'il avait pris complètement au premier degré. Et donc il demandait à la griffe de poursuivre le Libre Journal, dont je suis le je ne sais pas quoi, directeur, et en étant vice-président de la griffe. Si j'avais accepté de donner suite à ce projet, si Bernard Anthony avait accepté de donner suite à ce projet, ça aurait été un cas unique d'une association poursuivant son vice-président par l'intermédiaire du journal qu'il fait.
Je pense pas être tellement insolent, en fait.
Non.
J'essaye de rédiger quelque chose pendant des termes relativement mesurés. On serait dans d'autres publications, peut-être que j'userais de certains mots. Mais en fait, j'ai l'impression d'écrire un petit peu à l'avance des cours d'histoire que l'on dispensera demain en faculté, en troisième cycle, vers l'an 2010, lorsque la réforme Bayrou aura réussi.
Voilà. Pierre Chaumet.
Il s'applique très bien l'adage latin « castigat ridendo mores ». Quand le cardinal connaissait le latin, évidemment, mais quand il l'apprenait. Et donc, il y a de l'insolence.
Nathalie, donc là, on connaît votre passion officielle, c'est... la peinture, la sculpture, les arts plastiques en général.
Je ne pense pas avoir de passion secrète.
Ah, c'est la question que je pose.
Par ma fille, mais c'est pas forcément radiophonique.
Enfin non, là, bon, tout le monde aurait pu parler de ses enfants, mais...
Non, ce regard dont parlait Monsieur Monnier tout à l'heure, et c'est un regard particulier sur la peinture. Non, c'est une passion officielle. Enfin, officielle.
Et qui vient d'où? Qui est né où?
Qui est né depuis longtemps, mais je n'ai pas une formation de ce style. J'ai une formation littéraire. C'est un goût qui m'est venu depuis très très longtemps. Et j'ai commencé à écrire des petits papiers dans Aspect de la France sur les peintres, sur les expositions. Et puis, ça a continué.
Alors, quel est pour vous le plus grand?
Le plus grand peintre?
Oui. Est-ce qu'il y a un plus grand?
Non, il n'y a pas un plus grand. Non,
Pierre.
Plus grand.
Je commençais à sourire.
Vous m'attendiez
parce
au
qu'on
tournant.
En parle beaucoup. Je peux dire que l'année dernière, à la Trinité-sur-Mer, nous avons parlé de beaucoup de choses avec Jean-Marie, et notamment de peinture. Et je lui ai demandé s'il était comme moi, s'il pensait que Matisse était vraiment le plus grand peintre à l'heure actuelle. Mais il m'a répondu, je dis ni oui ni non parce que je veux pas porter de jugement, mais j'avoue que je ne partage pas votre enthousiasme. Mais je lui ai dit, ça va nous faire, pour une fois, un sujet de discussion. Maintenant, je vois qu'il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec Jean-Marie.
Alors, toutes les femmes s'appellent Anne, après
tout. Nathalie. Bon, quand le pape n'est pas là, parce que ça en ferait beaucoup. Oui.
Non, c'est la peinture qui me passionne, pas un peintre en particulier,
non plus,
sans que j'ai quoi que ce soit, bien au contraire, contre Matisse.
Non, je sais
bien.
Il y
a toute mon admiration.
Je peux ouvrir une petite parenthèse sur le premier article que j'ai donné à un journal, qui était L'Étudiant français, j'avais 17 ans, était consacré à Van Gogh. Et Léon Daudet en a parlé dans l'Action française.
Incroyable.
Incroyable.
Nathalie, non. Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à voir en ce moment? Parce que vous publiez dans le Libre Journal souvent très régulièrement, des comptes rendus de comment dirais-je, d'exposition. Mais on est décadère, on ne peut pas parler de tout. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez nous parler et qu'il faudrait aller voir?
Par exemple, à la Galerie Schmitt, il y a une très belle exposition en ce moment, la Galerie Schmitt, avec des Monet, des Rouault, des Cézanne, des Van Gogh, quelques toiles inédites. Et puis, très bientôt, on pourra aller voir les œuvres récentes de Pierre Choutet, mon confrère de l'Action française, qui expose ses œuvres récentes à l'atelier de l'Éclipse, rue de l'Asile Popincourt, à partir du 27 mai.
Ça, on en parlera dans le journal, parce que c'est tout à fait remarquable.
On n'a pas toujours la place.
Merci à tous. On va écouter un petit bout de musique, et puis on va passer au dernier de nos invités de ce soir, qui est Jérôme Brigadier, qui est l'homme qui, comme son nom l'indique, fait des critiques de cinéma et de théâtre. Alors, ça, c'est, on va le dire, c'est un morceau du Gloria, tout petit morceau du Gloria de Puccini, c'est un disque Erato, dans la collection Banzai. Pourquoi ce choix, puisque c'est vous, Jérôme Brigadier, qui avez choisi?
Parce que quand j'entends la messe de gloire, eh bien pour moi c'est l'approche la plus totale de Dieu. Puis je m'aperçois que très souvent, tout compte fait, tous les grands auteurs de musique profane ont fini toujours par écrire à la gloire de Dieu à un moment ou à un autre, et c'est le cas de Puccini. Et je trouve ce Gloria pour une messe de mort plutôt glorieux, et ça me plaît bien, voilà.
Donc on va faire avec vous, comme avec les autres collaborateurs du Libre Journal, vous avez une passion officielle qu'on n'évoquera pas parce que elle est hors sujet, et votre passion secrète, c'est celle dont vous alimentez les colonnes du journal. Alors, c'est une passion pour le théâtre.
Le spectacle, en général. Le spectacle, le cirque, le théâtre, le théâtre dans la rue, le spectacle. À partir de l'instant où des gens se montrent, je trouve ça intéressant.
Et vous voyez, moi ça me stupéfie, ça. Je veux dire, je vais au théâtre une fois tous les 5 ans, vous voyez toutes les pièces?
Pratiquement, ou par goût, ou par obligation, mais je finis par voir tout ce qui se fait dans la saison à Paris. Pas forcément dans les 15 jours de la création, mais dans l'année, je finis par voir à peu près tout ce qui est passé, au moins sur les 40 théâtres dits de boulevard.
Est-ce que aujourd'hui encore, on peut dire que le théâtre dit de boulevard est quelque chose de visible, ou est-ce que la télévision ne l'a pas tué comme elle a tué le cirque, par exemple?
Eh bien non, parce que moi ça fait 30 ans que j'entends dire tous les ans que le théâtre se meurt, et tous les ans quand on fait les comptes de la saison, on s'aperçoit que bon an, mal an, eh bien c'est aussi bien que l'année d'avant, et tout ça tient. Il y a encore des gens qui se battent pour acheter des théâtres, donc c'est qu'il doit y avoir une raison. Et puis quand y a une vedette, un bon texte, un théâtre correct, ce que j'appelle un théâtre correct, c'est-à-dire propre, où on laisse pas les gens entrer dans la salle avec des sandwichs, eh bien ma foi ça fait le plein.
Quelles sont les pièces en ce moment à Paris qui vous paraissent...
Alors, top niveau, c'est la sanction du public, c'est le dîner de cons, qui fait une merveilleuse recette tous les soirs. Dans une autre catégorie, il y a le visiteur, qui est une pièce, alors j'engage vraiment nos auditeurs à aller la voir, puisque c'est une pièce qui a eu tous les Molières, et on avait été un peu visionnaire dans le Libre Journal, puisqu'on avait dit faut aller la voir. Un an après, cette pièce ramasse 3 Molières. Et le jeune auteur, qui a 32 ou 33 ans, a eu l'idée de mettre Dieu sur le canapé de Freud, et c'est absolument superbe. C'est une pièce sur le doute et sur la foi, et c'est une des plus belles réussites de la saison.
Le cinéma, c'est une passion aussi?
Oui, parce que là aussi, c'est le spectacle, et c'est plus pour moi le spectacle total, parce qu'au cinéma, on peut tout faire, au théâtre, et j'aime bien le théâtre, parce que le théâtre, c'est l'artifice. Alors que le cinéma, eh bien, on a les moyens d'avoir une vraie mer, un vrai bateau, des vrais avions. Au théâtre, il faut avoir plus d'imagination, c'est vrai. Mais j'aime bien les films à grand spectacle.
Alors, on va sortir de ce sujet, parce qu'il y a un petit mot, un auditeur qui téléphone. Et qui pose une question, alors je vous la livre, vous répondez ou vous répondez pas, mais je vous sens prêt à répondre. Cet auditeur nous dit, c'est curieux, ce monsieur a exactement la même voix que le franc-maçon de Jean Ferré.
Bon, alors on casse le morceau. Alors, ben voilà, c'est moi, vous voyez, c'est le copinage ou la franc-maçonnerie, ben pas du tout, en définitive. Et oui.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un franc-maçon à... au Libre Journal?
Non. il y a jamais eu de libre de il y a jamais eu de franc-maçon de freemason d'homme libre. Il y a jamais eu de franc-maçon au Libre Journal.
Il n'y a que des hommes libres.
Voilà, il y a que des hommes libres totalement. Ouais. Alors on explique ou pas? Oui.
Ah ben oui. Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que vous faites chez moi.
Ben, c'est de votre faute. Bon, on fait très vite. Je suis venu chez Jean Ferré défendre la maçonnerie que je trouvais attaquée d'une façon injuste le mercredi. Mais c'était à une époque où déjà ma foi maçonnique vacillait un petit peu, parce que je trouvais que les grands maîtres de toutes les obédiences en faisaient beaucoup par rapport au Front National. Que ce soit le Front National ou autre chose, ce que j'aimais pas, c'était leur attitude. Mais enfin, je suis venu un peu ici défendre. Je trouvais qu'on attaquait beaucoup la maçonnerie. Puis à la suite de ça, j'ai expliqué quand même que j'étais de droite, monarchiste, etc. Tout le monde s'en souvient, puisque les auditeurs qui ont connu la voix 3 ans après. Et à une fête des BBR, je vous ai rencontré. J'ai dit, tiens, vous voyez, c'est moi le franc-mac, nous sommes en guerre. Et puis ça s'est très gentiment passé. Et puis on a décidé de déjeuner ensemble, comme quoi vous pactisez avec le diable. Et au cours de ce déjeuner, ben voilà, je vous ai résumé mes passions. Ben, il dit, ben, j'aimerais bien que vous écriviez, vous étiez à Minute à l'époque, que vous écriviez dans Minute. Et puis, j'ai écrit dans Minute. Et entre-temps, nous avons un soir à dîner chez des amis que nous avons en commun, j'aime pas dire des amis communs. Et à ce dîner... Parce
qu'ils sont surtout pas communs.
Ils sont surtout pas communs, ceux-là. Mais d'ailleurs, on les salue de nous écouter. On leur dit combien on les aime. Et moi, je m'attendais pas à vous trouver là, et vous sûrement pas non plus. Et à table, la maîtresse de maison ayant fait les choses comme elles auraient été faites, je m'étais retrouvé à côté de l'abbé Laguéry. Et pendant toute la soirée, nous avons eu un échange tout à fait détendu. Et à la fin de la soirée, fort tard, vous m'avez proposé de me raccompagner. Je vous ai dit, je suis très gêné parce que ce soir... j'étais à côté de quelqu'un qui me faisait une grande preuve de confiance, alors que moi j'avais le sentiment de le trahir. Et là, vous m'avez dit, mon vieux, faut choisir. Et vous avez été, et je vous en remercierai jamais assez, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'ai laissé passer quelques jours, j'ai envoyé mes lettres de démission. Et à partir de là, j'ai fait ce qu'il fallait vis-à-vis de mon confesseur. Donc je suis devenu parfaitement vierge.
Voilà.
Et comme c'est comme ça qu'il y a au Libre Journal quelqu'un de l'équipe de Minute qui vous a suivi, attiré par le salaire, et c'est ainsi qu'il n'y a pas de franc-maçon au Libre Journal. C'est quand même une très belle histoire de copinage.
Oui, oui, c'est vrai. Oui. Mais moi, je dois dire, moi qui aime les moments comme ça privilégiés, les moments un peu surréalistes, il faut dire que ce dîner où vous étiez assis à la droite de Monsieur l'abbé Laguéry, et où l'essentiel de la conversation a porté quand même sur le général, pas le général de Gaulle.
Non,
sur un autre général qui était en Espagne.
Oui.
C'était un moment précieux parce que c'est la raison pour laquelle quand on est sorti, je vous ai dit, mais écoutez, il faut arrêter.
Oui, non, c'est sûr.
Ça avait un côté
il faut préciser que moi, ces amis qui nous recevaient, je les ai connus en Espagne, à côté du général en question. Et nous avons sympathisé tout de suite.
Est-ce que vous regrettez d'avoir fait ce passage dans cette société?
Non. Non. Ça sera à refaire, je le ferai pas. Ça m'apparaît pas à la sortie d'une grande utilité. Mais c'est fait. Et puis bon, j'en garde pas un mauvais souvenir. Mais enfin, ça m'a rien apporté. Je peux vous dire les choses telles que je les pense. Mais j'en prends l'entière responsabilité. Je voudrais pas que ni vous, ni la radio aient des ennuis. J'ai décidé de tout arrêter. Enfin, il y avait des tas de motifs, je vous les ai expliqués tout à l'heure. Mais après avoir bien réfléchi, on est en train d'essayer de faire de moi un juif de synthèse. Et ça, je peux pas admettre.
C'est une jolie formule, ça. C'est...
Oui.
On peut l'approfondir, non?
Oui, si vous voulez. On a essayé de me faire raisonner d'une façon mondialiste. On a essayé de me rendre déambulatoire dans mon esprit. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite.
Cette idéologie à la fois extraordinairement élitiste,
oui,
puisque c'est un peuple élu par lui-même, la franc-maçonnerie.
Absolument. Oui.
Et en même temps, cette obsession qu'ont les francs-maçons de la persécution, puisqu'ils prétendent que tout le monde leur en veut, que tout le monde les persécute, alors qu'en fait, la défiance à l'égard de la maçonnerie n'est que la conséquence directe du secret maçonnique. Ça ne heurtait pas en vous d'autres convictions qui étaient beaucoup plus importantes, comme la conviction royaliste.
Alors le problème, il est très clair. J'ai eu la chance pendant 20 ans de pouvoir dire que j'étais monarchiste, que j'étais catholique, que j'étais tout à fait d'accord avec ce que faisait Mgr Lefebvre. Alors peut-être que ça faisait sourire, mais enfin en tout cas, on m'a jamais embêté sur ce sujet, donc ça me motivait pas pour m'en aller. Mais c'est le temps venant, je me sentais de moins en moins bien, car à un moment, faut choisir. Et puis il y a eu les événements que je vous ai dit, à savoir qu'on attaquait un parti politique de façon imbécile. Et puis il y a eu notre rencontre. Mais j'ai pas été franchement mal à l'aise pendant des années. Ça a mis un long moment.
Il faut dire aussi qu'il y a eu une évolution très marquée de la maçonnerie, qui est passée d'une réelle tolérance politique
D'il
y a 10-15 ans...
Une intolérance totale.
À une intolérance sectaire totale à l'heure actuelle. Où on voit même récemment, je lisais dans je ne sais plus quel journal du Midi, qu'un vénérable de loge avait été chassé par le tribunal maçonnique parce qu'il avait accepté d'initier quelqu'un dans sa loge en sachant que c'était un membre du Front National.
Oui, ça c'est assez nouveau. Il a fallu qu'il y ait l'élection du président Mitterrand pour que moi j'apprenne la couleur politique de certains de mes frères, entre guillemets. On avait cohabité pendant 15 ou 20 ans tranquillement. Il y en a qui étaient membres du RPR, d'autres membres du Parti Socialiste, on n'en savait rigoureusement rien. Et c'est quand d'un seul coup la rue Cadet, à laquelle j'appartenais, est devenue une annexe du Parti Socialiste, qu'il a bien fallu mettre les cartes sur table, et là c'est devenu des réunions politiques qui ressemblaient plus à rien.
Alors, il y a une question qu'on pose toujours aux anciens maçons. Est-ce qu'on peut quitter la franc-maçonnerie comme ça, simplement en disant...
Oui. Moi, c'est très simple. J'ai envoyé une lettre recommandée, très aimable, en exposant mes motifs très rapidement à toutes les instances auxquelles j'appartenais. Et puis, c'est tout. Alors, je vais vous préciser, effectivement, il y a toujours la fameuse histoire des chevaliers Kadosh qui poursuivent de leur vindicte les gens qui ont quitté la maçonnerie. Mais... Moi, j'étais un homme libre à l'intérieur de la maçonnerie. Je comprends que quelqu'un hésite à s'en aller quand il a obtenu son appartement par un copain qui est de l'office des HLM, quand il a obtenu son boulot parce qu'il est franc-maçon. Moi, je suis arrivé là, j'avais mon appartement, mon boulot, j'avais tout. Donc, tout ça n'était que philosophique. J'avais vraiment aucun avantage matériel. Donc, à la limite, j'avais pas à hésiter et on pouvait pas faire pression sur moi. Je suis parti. Il y a eu les coups de téléphone habituels de bons copains qui disent « Oh, pourquoi tu t'en vas ?» etc. Puis ça s'est estompé et puis voilà.
Est-ce que on ressent un sentiment de libération?
Vous voulez que je vous dise la vérité? Je me suis senti mieux une fois que j'ai reçu l'absolution d'avoir été franc-maçon. Dans la période d'intervalle suivant le divorce, j'étais pas très à l'aise. C'est après que la grande lessive était terminée. Et puis c'est fini. Et puis je me demande même si ça existe. Et enfin, c'est bon, on en parle. Et puis j'ai des souvenirs, bien sûr. Mais enfin, c'est très lointain.
Alors du coup, un auditeur nous dit, mais le comité de soutien pour la liberté de Radio Courtoisie que vous aviez initié,
c'est le cas de le dire. Je dois dire, honnêtement, pour faire plaisir à Jean Ferré, mais sans grande passion, parce que les propres amis de Jean Ferré, que je savais être franc-maçon et qui lui avaient fait parfois la joie de venir autour de cette table, quand je les ai contactés, d'ailleurs sans en parler à Ferré, parce que là, à ce niveau-là, ça ne le regardait pas, m'ont jamais répondu. Alors, je trouvais que déjà, il y avait un petit peu des affections de ce côté-là. Mais j'ai fait ce qu'il fallait. Quand j'ai quitté la maçonnerie, j'ai donné le dossier à un franc-maçon, ami de Radio Courtoisie, et puis ben, il en a fait ce qu'il a voulu.
Quelle impression vous ressentez quand vous... Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais j'ai dit un jour à ce micro... un franc-maçon, c'est ou un imbécile ou un salaud? Quelle impression ça vous fait? Comment vous réagissez?
Ben, j'étais pas content quand j'entendais ça quand j'étais maçon. Maintenant, avec le recul, je me dis, imbécile probablement, salaud sûrement pas. Imbécile probablement, parce qu'effectivement, on se laisse un peu porter aussi dans la réflexion, donc on perd son libre arbitre. Salaud sûrement pas, parce que un maçon conséquent qui arrive comme ça, il est en principe animé des meilleures intentions, donc c'est pas forcément un salaud. Les salauds, il y en a, mais ils sont peut-être pas à la base.
Un auditeur demande au Grand Orient. Alors, il faut répondre non, plus nulle part.
Ah, mais je suis nulle part. Bon, j'étais au Grand Orient, j'y suis plus, et puis voilà, j'ai failli aller ailleurs, mais j'ai réfléchi, non.
Je voudrais préciser que quand je dis imbécile, c'est pas dans le sens qu'on donne généralement à ce mot. Il y a des gens très intelligents qui sont francs-maçons, hélas. quand je dis imbécile, je veux dire quelqu'un qui a une espèce d'infirmité de l'intelligence de ce côté-là et qui est incapable de prendre le recul nécessaire pour voir à quoi il sert. Est-ce qu'on est en train de lui faire faire? Est-ce qu'on est en train de faire de lui?
Bah, je vous ai donné ma réponse. Hein. On essayait de faire de moi un produit de synthèse. Alors, à ce niveau-là, j'étais probablement un imbécile, mais pas un salaud.
Merci, Jérôme, car vous êtes pour nous Jérôme Brigadier. Voilà. On a encore du temps. On peut peut-être revenir. Alors, effectivement, un auditeur croit avoir percé votre identité sous le pseudonyme de Jérôme Brigadier. Il est perspicace.
Oui. Il a gagné le droit de s'abonner.
On peut lui dire, voilà, il a gagné le droit de s'abonner au Libre Journal de la France Courtoise, dont je vais rappeler avec une impudence incroyable l'adresse. C'est 139 boulevard de Magenta. Car effectivement, on reconnaît les gens de culture à ce qu'ils disent boulevard de Magenta et non pas boulevard Magenta.
Ou rue La Boétie au lieu de rue de La Boétie.
75-010 Paris, et je signale que l'abonnement est de 600 francs, mais que tous les arrangements possibles sont envisageables avec la bonne volonté de Philippe Varlet qui s'occupe des abonnements et qui vous dit « mais vous paierez quand vous pourrez, ma bonne dame ». Non, c'est pas tellement ça. Voilà, alors il y a beaucoup d'annonces à faire, je vais les faire rapidement si vous le permettez. On a déjà évoqué... l'exposition de notre ami Choutet, les œuvres récentes de Pierre Choutet, mais je rappelle quand même que c'est à partir du 28 mai et jusqu'au 10 juin 1994, tous les jours, dimanche compris, de 15 à 20 heures, sauf samedi, de 18 à 22 heures, c'est-à-dire sauf samedi. Le samedi, ça se passe de 18 à 22 heures, c'est bien ce que j'ai compris. Et sur rendez-vous, fermeture le mercredi, c'est à l'atelier de l'Éclipse, 3 rue de l'Asile Popincourt, 75-011, Paris. Le jeudi 26 mai, c'est-à-dire demain à 20h30, dans le cadre des Jeudis du Centre Charlier, Bernard Anthony donnera une conférence « L'Europe, enjeu du 20 juin » au Musée Social 5 rue Lascazes. Et à cette occasion, il dédicacera son livre « Combat pour mon pays », qui est un livre dont je recommande la lecture pour diverses raisons. La raison principale étant qu'il y a des photos de moi dedans, quand même. Et que, vraiment, de moi et de ma charmante adorée femme, et que ça vaut le coup d'acheter ce livre, ne serait-ce que pour avoir des belles photos. Non, mais en plus, les coups de colère, les coups de gueule de Bernard sont passionnants. J'ai été très touché de lire que Jean-Marie Le Pen avait rendu hommage à Ocaña, Luis Ocaña, qui était un grand champion, qui s'est suicidé parce qu'il avait un cancer généralisé et que bon, c'était pas facile à vivre pour un homme qui avait exactement mon âge. Et qui a été un grand, grand champion, héroïque, on peut dire. Le cyclisme, c'est un sport, moi qui n'aime pas le sport, c'est-à-dire qu'il y a deux sports pour lesquels j'ai une passion, comme on peut avoir la passion pour la tragédie grecque, c'est le cyclisme et la boxe, car ce sont des tragédies vécues. Voilà, et en plus, il était courageux, non seulement sur une bicyclette, mais il était courageux dans la vie, puisque en 88... il avait accepté de figurer au comité de soutien à la candidature de Jean-Marie Le Pen aux élections présidentielles, ce qui n'était évidemment pas le meilleur moyen de se faire des amis. À propos de Le Pen, puisqu'on en parle, pour une fois, on n'en voudra pas, il donne une conférence de presse, donc le public n'y est pas invité, mais pour parler et pour présenter un livre de Pierre Milioz qui s'appelle « Les frontières ou le chômage » publié aux éditions nationales. Donc je vous recommande ce livre qui présente naturellement un argumentaire tout à fait étayé, comme le fait toujours Milioz, sur la nécessité de préserver les frontières à l'intérieur de l'Europe si on veut pouvoir sortir un jour de la tragédie du chômage. Je signale également que le FNJ organise une réunion débat le vendredi 3 juin à 20h30 au Musée Social rue Lascazes, toujours sur le thème « Aujourd'hui l'Italie, demain l'Europe », avec des invités prestigieux des différentes formations de la droite européenne, le MSI, le Vlaams Blok, etc. Je signale que le 14 juin à 18h30 au centre Chaillot-Galliera, 28 avenue Georges V, Monsieur Jacques Bichot, professeur d'économie à l'Université Lumière Lyon 2, président de la Fédération des familles de France et membre du Conseil économique et social, donnera une conférence dans le cadre du CLÉ, catholique pour les libertés économiques, sur les retraites, un édifice à reconstruire. Je vous rappelle, 14 juin à Chaillot-Galliera. Et puis, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ah non, quand même, un dernier mot, parce qu'on n'aura pas le temps d'en reparler. Vendredi 27 mai commence au parc Georges Brassens une grande exposition à l'enseigne du Père Castor. Tout le monde a gardé le souvenir des albums du Père Castor. Et donc, ça se passe, parc Georges Brassens, vous savez, rue Brancion, 75-015, Paris. Je vous remercie d'être resté avec nous pendant ces trois longues heures. Je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Émission qui sera partagée avec Daniel Amiche et les Fous du Roi. Les partisans blancs.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Françoise Varlet. Document d'archives du 25 mai 1994, rediffusé dimanche 27 janvier 2013 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Votre gloire est immortelle, volontaire. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes au lieu du CD-ROM pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour le CD-ROM, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.